Bonsoir à tous, nous voilà pour une nouvelle émission avec toujours Marika à nos côtés qui va démarrer. Ce soir, elle va nous parler des revenus passifs et en parlant des revenus passifs, ça me rappelle un peu cette émission qu'on avait fait sur le mouvement FIRE qui lui souhaite des revenus passifs pour pouvoir se dégager du travail au quotidien qui permet de vivre. Alors, les revenus passifs, c'est quoi exactement? Qui en veut? Et puis, je vous pose tout de suite ma première question. Est-ce que quand on parle de revenus, on peut vraiment parler de revenus passifs? Parce que même gagner au loto, il faut quand même aller jouer. Est-ce qu'il y a vraiment des revenus qui sont totalement passifs? On va dire, il y en a qui sont moins durs à avoir que d'autres, mais est-ce que c'est vraiment totalement passif? Allez, je vous laisse nous éclairer et vous avez déjà ma première question en tête.
Bonsoir Bernard. C'est une très très bonne question. On va y parler, on va y parler juste après. Mais donc du coup, qu'est-ce que c'est qu'un revenu passif? Déjà, c'est une rentrée d'argent qui nécessite peu de travail. Donc peu, pas. C'est différent. Et donc, pourquoi on peut en vouloir? Donc, évidemment, il y a le mouvement FIRE dont on avait discuté avant, qui, eux, pour le coup, c'est vraiment pour aller à la retraite de façon précoce et ils ont besoin de ces revenus passifs, bah, justement, pour avoir une stabilité financière et pouvoir faire autre chose. Mais il n'y a pas que eux. Au final, on peut en vouloir juste pour bah, pas dépendre 100% de son salaire, puisque bah, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On peut vouloir changer de lifestyle, on peut vouloir changer de métier, d'industrie, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment voilà, le fait de ne plus dépendre à 100%. C'est aussi possible d'avoir des compléments de revenus. Donc là, je pense à des entrepreneurs qui ont possiblement des revenus un peu en dents de scie et qui voudraient un peu lisser, du coup avoir une source de revenus passive qui soit possiblement stable. Et pour partir à la retraite de façon précoce ou du voyage ou quoi que ce soit. Ce que j'aime bien en général, c'est de remettre du coup les millionnaires. Ils ont en général, en moyenne, sept sources de revenus différentes. Et vous, vous en avez sans même y penser. Bah, la première source de revenus passifs qu'on peut avoir, c'est par exemple des intérêts sur un compte sur livret. Et donc, ça, quand même, il y a pas mal de personnes qui en ont. Et puis après, si on va dans la liste, qui est évidemment pas exhaustive, hein, on peut avoir bah, des dividendes quand on a des actions, on peut avoir des coupons quand on a des obligations, on peut, si on fait de l'achat et revente, donc on achète, je sais pas moi, un immeuble ou un appartement, on le refait, etc., et on le revend quelques années plus tard, bah, du coup, là, on va avoir une plus-value. Donc, c'est une source pa alors passive. Ça dépend comment c'est géré, mais donc de la plus-value. On peut aussi acheter un business. Donc encore une fois, si on veut vraiment que ce soit passif, le but, c'est pas d'être impliqué dans la gestion du business, mais c'est de placer du coup certaines personnes à qui on a confiance pour que eux fassent du coup la gestion. Donc c'est une question de bien s'entourer. Et puis on peut avoir aussi avec l'immobilier bah, des revenus passifs. Encore une fois, à voir s'ils sont vraiment passifs, mais avec des revenus locatifs. Donc, si on est la personne qui manage, ce n'est pas vraiment passif. Si on fait appel à quelqu'un, du coup, c'est passif, mais ça a un coût. Et c'est possible aussi de faire bah, des SCI, des STPI, pardon, donc des sociétés civiles de placement financier, de placement immobilier, où là, pour le coup, il n'y a vraiment rien à faire. Donc, la
Alors,
question,
désolé, je vais
oui.
vous interrompre. Je voudrais qu'on arrive à donner quand même une petite définition du revenu passif. Parce que, alors, c'est vrai que quand vous avez de l'argent sur un livret A, on va dire, ou sur un livret de développement durable, des choses comme ça, OK, il n'y a vraiment rien à faire. C'est-à-dire qu'on a le capital qui est garanti, on a la sécurité de l'État, on a la sécurité interbancaire, le taux, il est fixé par l'État, donc on n'a même pas à négocier un taux avec un organisme privé, on n'a pas à se méfier de savoir si le voisin il a pas un peu plus ou si on ne peut pas avoir un peu mieux. Il n'y a pas de concurrence entre les établissements, tout le monde a la même chose. Donc, OK, on se déplace, maintenant on ne se déplace même plus. On fait un virement, on met l'argent sur le compte et après c'est vraiment passif parce qu'il n'y a rien à faire. Mais dès qu'on va aller vers des SCPI, ce n'est pas aussi passif que ça. D'abord, le choix de la SCPI, ça peut être des semaines et des semaines de réflexion. Ensuite, quand on est dans une SCPI, ce n'est pas extrêmement souple et extrêmement agile une SCPI, mais on peut quand même sortir pour en prendre une autre. Et des fois, on sait tous dans la finance qu'il vaut mieux se couper un doigt qu'un bras, et il vaut mieux se couper un bras que la tête. Ça, c'est quelque chose qui est, je ne veux pas dire un théorème, mais c'est presque une règle immuable pour les financiers. Donc, c'est passif dans le sens où on ne va pas travailler, c'est-à-dire qu'on ne va pas se lever tous les matins pour gagner par la besogne. Mais ce n'est pas passif dans l'idée où il n'y a rien à faire, et ce n'est surtout pas passif dans l'idée où il n'y a pas à faire. Et la mission de surveillance, si on ne devrait que surveiller ça, c'est déjà du travail. Donc, vous, quand vous dites passif, c'est quoi? C'est absence de travail?
Alors, c'est peu de travail, donc ce n'est pas l'absence. Et surtout, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'au départ, il y a du travail. C'est une fois que c'est mis en place, du coup, bah, ça devient passif. Pourquoi? Bah, parce que c'est une fois de temps en temps, peut-être surveiller ce genre de choses. Mais c'est comme si, je ne sais pas, vous voulez faire un cours en ligne, etc. Bah, pour créer le cours, il y a beaucoup de travail parce qu'il faut réfléchir à la stratégie, la structure, il va falloir enregistrer, etc. Donc ça, du boulot. Mais une fois que le cours il est en ligne, bah, du coup, vous êtes en train de dormir et il y a quelqu'un en Asie ou aux États-Unis qui peut acheter le cours sans que vous ayez pardon, agi pour. Donc ça, c'est passif dans le sens où il y avait du travail au début, mais n'empêche que bah, ça tombe sans trop de travail maintenant. Et c'est la même chose dans tous les revenus qu'on peut avoir bah, financiers. Le choix d'une SCPI, bah, clairement, il faut se poser les bonnes questions parce qu'en plus, il y a des problèmes de liquidité. On va pas, c'est pas comme si on va vendre comme ça. Donc, il y a un travail en amont. Mais une fois que le travail est fait, une fois qu'on a une bonne vision, une fois qu'on a investi, bah, là, pour le coup, ça rentre sans, encore une fois, trop d'efforts, à part un peu de suivi.
Vous voyez, moi je pense que c'est plutôt un des travers des influenceurs aujourd'hui, où ils aiment bien donner cette idée de travail passif, mais de revenu passif, donc de revenu passif qui serait sans travail. Mais j'y crois pas trop, et même pour tout vous dire, ça me met un peu mal à l'aise. Je vais reprendre un exemple qui va un peu dans votre sens, mais je pense à un artiste qui crée une œuvre, qui crée une toile, et qui ensuite va en faire une lithographie, voire même une affiche, voire même quoi qu'il en soit. On est juste dans la reprographie. Bien sûr, c'est pas lui qui va aller à l'usine le matin pour faire tourner des choses. En revanche, en termes de passivité, c'est où il a un agent qui s'occupe de ça. Et là, il y a vraiment des gens qui travaillent. Donc, il y a vraiment des gens qui travaillent pour vendre de la litho, vendre de l'affiche, vendre des assiettes. Ou alors, il le fait lui-même. Et s'il ne fait rien, ben ses revenus, ils vont vraiment être passifs. Ils vont être passifs et proches de zéro. Alors que s'il se donne du mal, s'il contacte, s'il fait des expos, s'il va dans des lieux, s'il se fait connaître, s'il essaie d'avoir un peu de radio, un petit peu de télévision, donc on va être dans du travail. Ça n'aura plus rien de passif, même si quand quelqu'un va cliquer sur Amazon pour acheter un t-shirt, les 4 euros vont aller directement dans son compte. Mais ce que je me demande, et le terrain sur lequel j'ai envie, moi, de vous amener, est-ce que ce n'est pas plutôt une mode du moment avec ces influenceurs qui ont essayé de vendre des programmes, qui ont essayé de vendre des formations, des tutos sur Internet, en disant tu t'enrichiras jamais en travaillant. Si tu veux t'enrichir, c'est avec l'argent des autres. Vois ma vidéo, 15 minutes, et pour l'instant, je t'offre l'avant-première. Est-ce que ce n'est pas ça qui est en train d'un peu déranger la société? Vous voyez? Vous-même, vous faites des enregistrements, des choses comme ça. Donc, vous avez des podcasts, vous avez des choses comme ça. Mais ben, vous savez mieux que quiconque que sans travail, il n'y a personne qui va les lire et personne ne va les écouter. Et qu'il faut les pousser sans arrêt. Donc, que ce soit vous ou un de vos employés, ça revient un peu au même. Il y a du travail et le revenu, il n'est pas passif. Il peut être passif de votre propre travail, mais j'ai du mal à imaginer un revenu passif, à part quelques rares exceptions. Allez, une obligation du trésor sur 30 ans, et là, ma foi, voilà.
Non, mais
Alors,
faut quand même la choisir, cette obligation. Donc, il y a quand même le travail en amont.
d'accord, mais une fois
Pareil.
qu'on a choisi,
Oui.
si on a une obligation du trésor américain ou même du trésor français voilà, ou de la BCE, ben on se dit que ça va tomber, que c'est sûr, et que à part changer son fusil d'épaule, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire une fois qu'on a donné son RIB, que tout est inscrit, que tout est fait au début, bah, il n'y a rien à faire sauf changer son fusil d'épaule. Et là encore, on va être d'accord, c'est que pour changer son fusil d'épaule, il faut avoir de la data. Pour avoir de la data, il faut passer un petit peu de temps à emmagasiner cette data, un peu de temps à réfléchir, un peu de temps à synthétiser, un peu de temps à analyser. Et j'ai envie de vous dire, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 3 ans, on dit oui, je continue ou non, je ne continue pas. Mais voilà. Donc ce côté passif, il me met un petit peu mal à l'aise et je me demande si ce n'est pas un phénomène de mode et un phénomène apporté par des influenceurs qui, eux, n'étaient pas passifs et ne pensaient qu'à une chose, c'était le plus activement du monde, aller prendre votre argent.
Non, bah, clairement, ça dépend. Donc, j'ai dit peu de travail, donc ça dépend comment on définit le peu. Et tout ce que, enfin, tous les réseaux sociaux qui disent on peut s'enrichir facilement, etc., sans boulot, enfin, c'est souvent des scams, donc c'est pas nécessairement le sujet. Mais donc, encore une fois, c'est comment essayer de créer différentes sources de revenus pour bah, avoir de la flexibilité, qu'on soit entrepreneur et avoir plus de stabilité, que si un jour on a envie de changer de travail, du coup on ne soit pas un peu coincé parce que si on a envie de changer de domaine, peut-être que les payes sont différentes, etc. Ça, moi, je trouve ça plutôt inspirant. Donc, passif, oui, quand même un peu de boulot. Et à chaque fois, pour que ce soit le plus passif possible, en fait, il faut qu'on soit accompagné. Donc, quand je sais pas, on a investi dans des appartements physiques, clairement, si c'est à soi de gérer, c'est du travail. Il y a les travaux, les changements de locataire, enfin, bref, donc c'est vraiment du boulot. Faire sous-traiter, pour le coup, il y a moins de travail, mais du coup, il y a moins de rendement. Donc, c'est toujours trouver un peu qu'on appelle le sweet spot pour, avoir des revenus, mais non plus que ça ne devienne pas quelque chose qui nous rajoute de la charge mentale ou autre, quoi.
Bon, et alors, on a un autre revenu passif, donc on va clôturer là-dessus, on va en parler 2 minutes quand même, puisque c'est un sujet d'actualité. Donc, on commence à travailler plutôt jeune, on continue jusqu'à 64 ans, et on déclenche sa retraite. Et là, on a un vrai revenu passif, n'est-ce pas?
Oui.
Là, il est vraiment passif, il n'y a rien à faire, il y
Mais
a juste à donner son RIB, et ensuite, si on ne change pas de banque, un certificat de vie une fois de temps en temps pour prouver qu'on est toujours là et qu'elle n'est pas, indue. En revanche, ce revenu passif, sa construction tout au long d'une carrière est absolument pas passive. C'est-à-dire que bon, il y a des choses où on est soumis à des lois du pays dans lequel on vit, mais après, en ce déplacement, il y a des pays où les lois sont plus dure, moins dure, plus encadrante, moins encadrante. De tous les pays développés au monde, il y a des systèmes permettant de compléter et permettant d'organiser avec, bon, en France, on parle de cotisation obligatoire, cotisation facultative, mais de toute façon, on est tous dans le facultatif. Enfin, avant que les retraites soient inventées, les gens cherchaient déjà à économiser et à mettre de côté. Pour quand il serait faible, vieux et plus en état de travailler, quoi. Vous avez même la technique africaine, bon, je dis ça avec beaucoup d'humour, qu'on vient pas de chercher des poux dans la tête, qui est de dire on va faire beaucoup d'enfants, il y en aura toujours un qui réussira et qui s'occupera de nous. Mais là aussi, pour faire des enfants, il faut être actif, hein. Ça ne se fait pas tout seul et après, ça ne grandit pas tout seul. Donc voilà. Mais moi, Marika, ce que je vais retenir de cet enseignement, de cette petite formation que vous nous avez faite, c'est que la frontière, elle est beaucoup plus fine qu'on croit, elle est beaucoup moins existante qu'on croit, et c'est peut-être plutôt une question de mode et de génération où on cherche avec le côté passif, c'est plutôt le côté un petit peu, ça me fait penser à une vieille publicité, il fait trop chaud pour travailler, de faire croire aux gens qu'en suivant un chemin, ils pourront avoir de l'argent ou des revenus sans travailler. Voilà. Et après, bon, dans la gestion de patrimoine, donc là, je vais revenir à mon métier. Autant ça peut paraître très bizarre et très, très surprenant à des gens qui n'ont pas de patrimoine, mais quand vous avez un patrimoine, l'essentiel de votre travail, c'est un, de ne pas le perdre. C'est-à-dire que les trois grands piliers du gestionnaire de patrimoine, c'est petit 1, on ne perd pas l'argent du client. Petit 2, on essaye de au moins garder la valeur donc en lui faisant gagner l'inflation chaque année pour avoir une conservation de la valeur. Donc petit 1, pas de perte. Petit 2, conservation de la valeur. Et petit 3, si on peut lui en faire gagner, c'est encore mieux. Mais les deux premières grandes étapes d'un gestionnaire de patrimoine, c'est d'abord être sûr que le client va pouvoir conserver le patrimoine qu'il a quand vous le rencontrez. Deux, que vous allez être en capacité de conserver à son patrimoine sa valeur. Et trois, ma foi, si on lui fait gagner un peu de sous, eh ben, c'est encore mieux. Allez, je vous laisse conclure et après on passe à nos autres invités qui nous ont tous rejoints sur notre plateau.
Non, ben, je suis d'accord. Enfin, moi, en tant que donc, ma génération, je trouve ça plutôt chouette, les revenus passifs. Enfin, c'est quelque chose qui m'attire et enfin, que je travaille pour. Et donc, en ce moment, j'en ai certains qui sont passifs, j'en ai certains où je travaille pour qu'un jour ce soit passif. Voilà, donc il faut encore une fois mettre le curseur là où on le veut. Mais oui, je trouve avoir plusieurs sources de revenus, je trouve ça personnellement rassurant.
Allez, j'ai quand même une dernière question. Comme Colombo, juste une petite dernière. Est-ce que c'est en étudiant le mouvement FIRE que ça vous a donné cette inspiration donc de créer des revenus dits passifs pour pouvoir un jour ou l'autre vous exonérer d'un travail qui est actif?
Clairement. Non, et puis c'est un peu, enfin, je travaille, mais je suis passée de trader à coach. C'est clairement pas le même rythme, même si j'adore ce que je fais, je suis très contente. Mais du coup, j'ai déjà un petit peu réduit la voilure en créant mon business, même si je suis très contente de comment ça performe, etc. Mais du coup, pourquoi je peux justement un peu baisser en termes d'intensité, c'est parce que bah, j'ai pas mal investi et que justement j'ai ces types de revenus qui m'aident.
D'accord. OK. Ben, mille merci pour cette participation et on vous dit à dans 15 jours pour une nouvelle participation avec un nouveau sujet qu'on vous dévoilera pas aujourd'hui et on va laisser la surprise venir petit à petit. Merci beaucoup,
Merci
Marika.
beaucoup.
À très bientôt. Il est maintenant temps pour notre édito sur lequel on réagira tous ensemble derrière. Alors, aujourd'hui, les deux mamelles de la croissance. François Ier disait que Paris et Lyon étaient les deux mamelles de la France. La citation a petit à petit évolué pour dire que ce sont l'industrie et l'agriculture qui nourrissent la France. Demain, si ce n'est pas déjà aujourd'hui, les deux mamelles du grand cycle de croissance qui s'ouvre sont la transition énergétique au sens large et l'intelligence artificielle. Cela sera porté, si ce n'est téléporté, par les grands plans de relance, de refondation ou de modernisation. En France, nous avons vu les retraites, qui d'une manière ou d'une autre est un peu un plan de relance puisqu'on va faire travailler les gens plus longtemps. Nous allons voir l'emploi, où là aussi on va essayer de mettre plus de personnes en emploi, donc c'est aussi une manière de relancer. Et les nouvelles lois sur l'immigration qui finiront par venir vont en décevoir plus d'un quand ils verront la porte ouverte aux travailleurs dont nous avons besoin. Le roi de tous les plans, l'empereur du moment, est bien entendu l'IRA, l'Inflation Réduction Act aux États-Unis, qui fait la part belle à la transition énergétique. Il y a en conséquence de fortes chances que nous ayons un ralentissement en fin d'année, ce que les initiés appellent un soft landing, pour repartir de plus belle, porté par ces deux mamelles. Il y a juste un hic. L'argent est devenu trop cher et va se raréfier. Pousser la croissance de l'IA qui demande encore beaucoup de recherche et peut mettre du temps pour un retour sur investissement. Seuls les GAFAM ont les poches pleines et c'est donc par eux que cela passera. C'est sans doute une des raisons de leur hausse depuis le début de l'année. Du côté de l'énergie, l'argent viendra des États, donc nos limites, ou presque. Ils nous ont montré ce qu'ils étaient capables de faire entre le Covid, la guerre, enfin toutes les injections qu'on a vues dernièrement. Et comme toujours, l'innovation est plus liée à l'argent que l'on investit qu'à n'importe quel autre curseur. Et c'est aux US que l'argent coule le plus facilement. En conclusion, les marchés ne baisseront pas, en tout cas pas beaucoup, sauf surprise exogène. C'est encore la croissance qui nous portera, cette fois-ci au travers de l'énergie et de l'intelligence artificielle. Et même si les actions américaines sont déjà plus chères, elles vont le rester et peut-être même creuser le fossé. Les points sur lesquels j'aimerais voir nos invités réagir sont les suivants. Partagez-vous mon avis sur ce grand cycle de croissance qui s'annonce? Les GAFAM sont à surveiller de près et ils vont être les grands gagnants de l'IA. et ce ne sera pas de nouvelles sociétés qui émergeront. Et le troisième point, et c'est encore aux USA que tout, allez, je change un petit peu, ou presque, se passera. Et voilà. Alors, comme d'habitude, c'est Cyriaque Dayan de Senso qui va commencer à répondre. Donc, l'édito est dense, les trois questions, même si elles sont rapides, sont denses aussi. Et comme on voudrait faire circuler la parole, concentrez-vous sur une ou deux questions, donnez un avis court et on passera à quelqu'un d'autre pour revenir à vous après.
Ok, très bien. Je pense que je vais commencer sur la dernière question, la place des États-Unis dans ce grand chamboulement qui est en train de se mettre en place. Je pense en effet que malheureusement pour la zone euro et l'Europe, on va de nouveau être en retard sur le sujet. Alors il y a des investissements qui sont faits, mais en proportion de ce qui est fait par les grandes entreprises américaines techno qui ont déjà de l'avance, on est loin derrière et je suis pas certain et je crains en tout cas qu'on ne les rattrape pas ou très difficilement. Peut-être un endroit où il y a une capacité de résistance parce que l'économie a été construite de cette manière-là, c'est la Chine, où clairement il y a une volonté forte des autorités chinoises de développer leur propre industrie techno. On a les Alibaba, on a d'autres sociétés moins connues en Europe, aux États-Unis, qui sont vraiment aujourd'hui extrêmement actives et qui ont des moyens. La question pour les entreprises chinoises, ça va être finalement, est-ce que les Américains, en tout cas principalement les Américains, vont un peu leur couper l'herbe sous le pied en limitant les exportations des produits, on parle des semi-conducteurs en particulier, qui sont nécessaires au développement de cette industrie d'intelligence artificielle. Ça, c'est la vraie question. Mais pour répondre de manière très claire, oui, aujourd'hui, c'est aux États-Unis que ça se passe. Demain, ça sera aux États-Unis et ça va être un booster au niveau de l'activité, mais aussi au niveau des entreprises. Et donc, ça justifie de payer aujourd'hui les actions américaines plus cher que les actions européennes et ça sera encore le cas sur les 10 prochaines années, à mon avis.
Alors, je vais demander à Bruno Zaraia de réagir sur ce que vous dites. Alors, Bruno, bonsoir. Attention, après, vous allez parler de votre fonds et que de votre fonds. Donc, on va essayer de ne pas mélanger les deux, de laisser la présentation du fonds Ginger pour tout à l'heure. Et là, de se concentrer vraiment bon, sur la réaction de Cyriaque à la question. Et c'est encore aux États-Unis que tout se passera. Ce qui est intéressant avec votre avis, c'est que vous avez un fonds qui est européen. Si je ne dis pas de bêtises, il est que européen. Il n'y a aucune valeur américaine dans votre fonds, n'est-ce pas?
Aucune.
Ok, allez, je vous laisse réagir, rebondir, contredire sur cette question et la première réaction de Cyria.
Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, la réaction est difficile parce que la question est difficile. Déjà, la question au début était compliquée. Je crois qu'en effet, les États-Unis sont driver de beaucoup de choses pour l'économie et pour beaucoup d'activités mondiales. Je crois que la leçon du Covid, on est encore dedans, a été la relocalisation de beaucoup d'activités. Longtemps, on a cru que la Chine serait l'usine du monde, on a cru que les États-Unis seraient le moteur du monde. Et je crois qu'aujourd'hui, justement, ça participe beaucoup à l'inflation. Excusez-moi, la relocalisation dans les différentes zones fait que vous aurez une zone américaine, une zone européenne, une zone asiatique, et que finalement, cette mondialisation différente ou cette fin de mondialisation génère probablement des zones de croissance très importantes que vous avez soulignées. Je crois que par rapport à votre question, c'est un petit peu le début de dire les GAFAM ou de parler de ces sociétés qui tirent justement les indices, notamment américains. C'est la première fois aux États-Unis qu'aussi peu de valeurs tirent les indices et la valorisation. Je crois qu'on peut avoir des certitudes sur les thèmes, et vous avez raison, la transition est une certitude, comme l'environnement. Mais en 2000, on aurait fait cette conférence ensemble, on aurait dit que la technologie était la certitude des 20 prochaines années. Et en 2000, à l'époque, c'était Yahoo et Nokia, et ces deux entreprises sont en grande difficulté aujourd'hui, voire ont quasiment disparu. Donc il faut dissocier la thématique de la façon de la jouer. Et je crois qu'aujourd'hui, on atteint des valorisations qui ne sont pas du tout raisonnables, puisque nous, on vient parler de macro en croissance haute, mais il faut aussi parler de prix. Je crois que longtemps, on pensait qu'il y aurait un match aux États-Unis entre AMD et Intel, et finalement, c'est Nvidia, une société qui fait des cartes graphiques qui arrivent dans le peloton et qui dépasse tout le monde, avec des valorisations que personne ne comprend et qui sont évidemment complètement hallucinantes. Donc, je crois qu'il y a des éléments à prendre en considération, que quand on voit Facebook qui prend ce virage, et déjà, qui s'appelle maintenant Meta, qui prend ce virage d'intelligence artificielle il y a déjà 2-3 ans, ça coûte énormément d'investissement. Je pense que la thématique, évidemment, sera la bonne. Pour la jouer et avec certitude sur l'entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Nous, vous savez qu'on fonctionne par rapport à des risques. On dit qu'aujourd'hui, vous parlez de croissance, moi je suis content qu'on parle de ça, parce que depuis 5 ans, on alterne 6 mois à parler de récession et 6 mois à parler de croissance. Et pour parler de ralentissement,
C'est bien qu'on parle de quelque chose.
je suis bien d'accord avec vous. Mais ça montre bien aussi l'approche des investisseurs. et la crainte qu'il y a depuis des années. On se serait vu il y a un an ensemble ici avec l'arrêt du gaz en Europe. On n'aurait parlé que de récession, d'incapacité à chauffer l'hiver, d'incapacité à produire. Et on se rend compte que, vu la façon dont est traitée l'information, on a tendance à essayer d'excéder les peurs, de les rendre beaucoup plus présentes et de ne jamais parler des côtés rassurants. Et je trouve que pour revenir à la question sur les États-Unis, aujourd'hui, on a déjà vu des marchés, je crois qu'en 2007 notamment c'était le cas, mais où le marché américain pouvait souffrir avec un marché européen qui surperformait. Aujourd'hui, je crois qu'on a des valorisations qui sont très différentes en Europe et aux États-Unis. Il y a des décotes qui sont très fortes et c'est vrai que nous, on s'attache évidemment au prix des actifs et au prix des choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en Europe, on a un peu plus d'idées qu'aux États-Unis, même si on n'investit pas, on n'investit pas aux États-Unis, on a comme une vision sur et le marché et les valeurs. Et on voit qu'il y a des décalages qui sont aujourd'hui, selon nous, pas complètement normales entre les valeurs, mais ça, on pourra en parler plus tard et ça peut
Allez,
s'expliquer.
je vais vous interrompre, Bruno, et on va passer à Maëlle. Donc, Maëlle, et on reste exactement dans la même ligne. Donc, la réaction, c'est à la question, et c'est encore aux USA que tout se passera. Vous avez entendu le point de vue de Cyriaque, vous avez entendu le point de vue de Bruno. Dans ce qu'a dit Bruno, il y a quelque chose que j'ai envie de relever. Donc, il parlait dans les années 2000, de Yahoo, de Nokia. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui a changé, c'est que quand les GAFAM sont arrivés, quand on a commencé à les appeler les GAFAM, une des vraies raisons pour lesquelles on les a appelés les GAFAM, c'était cette capacité exceptionnelle, extraordinaire et jamais vue à créer du cash, à créer du cash et à créer de l'argent et à en faire voilà, on lisait dans la presse que certains avaient plus de PIB que certains États, que d'autres avaient des réserves, que certains empruntaient moins cher que le Trésor américain du fait de la qualité de leur bilan et de l'excès. Donc, est-ce que ce n'est pas un changement? Oui, non, j'en sais rien, c'est vous qui allez nous dire. Allez, Maëlle, on vous écoute.
Bonjour, c'est intéressant ce qui a été dit. Moi, je trouve que le point positif, c'est la croissance, hein. C'est vrai que c'était un peu morose quand même depuis quelques mois. Et là, on reparle de croissance pour les mois à venir. Donc, ça, c'est déjà un bon point. Moi aussi, je n'arrive pas à lire dans une boule de cristal. Donc, vous dire ce qui va se passer, c'est difficile. Ce que je vois, en tout cas, c'est que, comme le disait Bruno, suite au Covid, on réindustrialise beaucoup. Là, j'ai vu que dans le nord de la France, on allait créer une des plus grandes usines de fabrication de batteries. Avec une coalition de différents constructeurs européens, donc allemands, français, entre autres. Donc, on réindustrialise beaucoup ici. C'est sûr que les GAFAM, elles sont essentiellement américaines. Et donc, les Américains, bah, forcément, là, ces GAFAM, elles ont du cash. Et donc, c'est ceux qui vont investir le plus dans la recherche. Et donc, ils vont avoir un temps d'avance. Mais en général, quand ils ont un temps d'avance et qu'ils ont beaucoup de cash, ils rachètent la technologie des autres. Donc, ils vont racheter des technologies chinoises, pour moi, et des technologies européennes, j'espère. Donc c'est sûr qu'ils vont tirer le marché vers le haut, ils vont être en avance. Néanmoins, on va arriver à tirer notre épingle du jeu. Moi, je suis sûr qu'ils vont investir énormément en Europe pour leur développement. Donc l'un dans l'autre, on sera peut-être derrière, mais on ne fera pas tant à la traîne que ça, j'espère.
OK. Alors, on va passer à une autre question. C'est moi qui vais la choisir. La première qui me paraissait quand même la question la plus importante. Alors, c'est vraiment la question la plus casse-gueule aussi. C'est partagez-vous mon avis sur ce grand cycle de croissance qui s'annonce. C'est-à-dire que, en substance, ce que je vois, c'est que, OK, on a fait notre hausse des taux. Peut-être qu'elle n'est pas finie, mais de toute façon, l'essentiel est passé. Et il pourrait y en avoir une ou deux petites derrière comme ça pour faire des réglages fins. Mais l'essentiel de la hausse des taux est passé. Donc, je vous rappelle aux auditeurs que la hausse des taux, les banques centrales décident les taux courts. Après, c'est l'économie qui va décider de la quantification des taux. Et là, il peut se passer encore beaucoup de choses ou beaucoup de surprises ou des choses qu'on a du mal à comprendre ou qu'on n'anticipe pas aujourd'hui. On voit en Chine, qu'il y a un petit peu du mal à produire comme ils voulaient produire. Donc, ça va amener un petit peu de déflation. Et les Chinois ne vont pas se laisser faire. Hein. C'est-à-dire que tout le monde veut réindustrialiser. C'est des vrais commerçants, les Chinois. C'est aussi des vrais industriels. Et ils ne vont pas se laisser faire. Et ils vont se battre pour amener leurs marchandises. Et on le voit déjà venir avec les voitures, où ils vont se battre dur pour implanter leurs voitures dans les pays développés. Donc moi, à mon avis, c'est on va vers un grand cycle de croissance porté par ces deux mamelles que j'appelais l'IA et la transition énergétique. Et cette fois-ci, c'est Bruno, c'est vous qui allez commencer sur ce sujet. Est-ce que, alors, Une des particularités de votre fonds, c'est qu'il y a beaucoup de batteries, il y a beaucoup de batteries, il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup d'analyses. Je ne sais pas si ces points-là, vous les analysez en particulier, mais en tout cas, c'est beaucoup de data qui remontent avec lesquelles vous prenez des décisions. Est-ce que vous partagez mon avis, tout à fait, pas tout à fait, un peu ou pas du tout?
Alors déjà, vous avez raison de souligner, notre fonds a une particularité, c'est qu'il s'assure sur deux jambes. Une jambe fondamentale, dont on parle en ce moment, et une jambe qui est la lecture des risques, qui pour nous est le risque réel prospectif de marché. Et peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Sur l'aspect fondamental, je partage une partie de votre avis dans la mesure où déjà, je m'excuse de parler de ça, mais ça me paraît important, c'est qu'avant de parler de cycle de croissance important à venir, il faut déjà valider le fait qu'on vient de connaître un cycle de croissance important passé. Parce que beaucoup de gens nous croient en récession tout le temps, on vous parle de choses catastrophiques, mais en fait, on vient de connaître un cycle de croissance important qui, je vous l'accorde et je vais dans votre sens, pour nous, est amené à perdurer. Alors, ça veut dire que, vous savez, dans les marchés, ce qui compte, c'est deux choses. C'est évidemment ce que vous allez appréhender à venir, mais aussi ce qui est pricé. C'est-à-dire que si vous avez déjà dans les prix d'une entreprise des choses très pessimistes, s'il se passe des choses moins pessimistes, ce n'est pas pour autant que c'est très gai, mais c'est quand même mieux par rapport au marché. Aujourd'hui, on a des marchés où les gens avaient anticipé depuis un petit moment des phénomènes plutôt pessimistes et donc impacté fortement les valorisations de ce point de vue-là. Par rapport à la croissance dont vous parlez, je crois que les phénomènes de relocalisation implique forcément plus de croissance. C'est-à-dire que vous allez démultiplier. Avant, quand vous aviez une usine qui faisait une chose en Asie, maintenant, vous avez la même qui va faire pareil en Europe. On parlait tout à l'heure des batteries. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ce qui se passe au niveau des batteries et de la volonté européenne d'être indépendant aussi bien énergétiquement, ce qui a un coût, qu'au niveau des technologies. On aura pareil aux États-Unis. Et ça, forcément, quand vous avez les trois actifs, ben, c'est plus de croissance puisqu'il faut plus de personnes, plus d'usines, plus de matériel. Et ça va se ressentir. Je crois qu'aujourd'hui, la nouvelle qui est intéressante, et ça corrobore un peu vos propos, quand vous regardez les résultats d'entreprises européennes au premier trimestre, vous vous rendez compte que elles n'ont pas de rupture de croissance, au contraire, et que pour beaucoup d'entre elles, c'est le cas de Saint-Gobain, c'est le cas d'Infineon, c'est le cas de Valeo, ont des carnets de commandes très pleins pour les prochaines années avec des niveaux de marge assez élevés. Et ça, ce sont plutôt des signaux de croissance que d'une récession. En règle générale, on a du mal à augmenter les prix quand on est en récession. Donc tout ça, je dirais, corrobore un petit peu votre analyse et votre discours. Et je pense qu'en effet, il y a un point qui est important, et ça, c'est quelque chose qui est abstrait à le moment où on parle, c'est qu'on est dans une phase d'innovation dans énormément de secteurs pour les prochaines années. C'est vrai dans le médical, c'est vrai dans la construction, c'est vrai dans l'informatique, c'est vrai aussi dans les voitures autonomes ou autres. Donc ça veut dire que tout ça sera probablement source de croissance sur des secteurs qui seront nouveaux, qu'il est peut-être aujourd'hui difficile d'appréhender, mais qui vont exister, qui vont probablement permettre de tirer l'économie vers autre chose. Je ne crois pas qu'il n'y aura que l'IA pour tirer l'économie. Ça sera une aide à beaucoup d'acteurs et beaucoup d'actifs, mais ça sera pour nous une aide sur autre chose, notamment les industries, les technologies ou autres. Et donc, nous, aujourd'hui, c'est vrai que…
Je vous interromps. Est-ce que vous, dans votre société, vous avez déjà parlé, pensé ou commencé à intégrer l'IA dans vos réflexions et surtout dans vos matrices d'analyse de risque? Alors, dites-moi oui ou non. Avez-vous pensé oui?
Je vais vous faire une réponse terrible parce qu'en fait, oui et non. D'accord. Je vous explique pourquoi. Oui, parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir, vous avez raison. Et non, parce que ce n'est pas encore optimum. Mais comment on y a déjà pensé? Vous savez, ce qui compte par rapport à l'IA, c'est l'intégration de la donnée dont vous aurez besoin demain. C'est-à-dire qu'en fait, de savoir aujourd'hui l'ensemble des données dont vous aurez besoin demain permet d'organiser, de stocker la donnée pour que le jour où l'IA soit disponible et efficace, on puisse justement l'appréhender et l'organiser au mieux. Aujourd'hui, il y a énormément d'avancées qui ont été faites, mais l'IA pour nous n'est pas encore optimum optimisé, qui permettrait de travailler mieux dans ce que l'on fait. Peut-être demain, peut-être après-demain, je ne sais pas.
Alors là aussi, je vais vous interrompre. Si vous vous rappelez, d'ailleurs, il faut y arriver à se rappeler, la première fois que vous avez travaillé avec un ordinateur et comment vous travaillez aujourd'hui avec un ordinateur, est-ce que vous pensez que votre premier ordinateur était optimum et optimisé?
Absolument pas. Voilà.
On a un outil qui arrive. C'est notre regard sur la technologie qui a évolué. C'est-à-dire qu'on voit qu'on en est au début, mais les premières télévisions qu'on a eues, elles étaient ni optimum ni optimisées. C'était des espèces d'armoires à glace en noir et blanc. Les premières voitures qu'on a eues, elles étaient ni optimum ni optimisées. Mais à un moment, il faut bien démarrer. Et là, ce qu'on a la chance d'assister, c'est que l'intelligence artificielle, elle est née devant nous, enfin, elle a été enfantée devant nous. C'est notre génération et notre génération au sens large.
Comme Internet.
Oui. Alors, Internet, c'est quelque chose qui est né dans les années 60, qui a été utilisé par l'armée, qui petit à petit s'est dévié vers les universités. Et ensuite, il y a eu une idée de mettre ça au grand public et d'y amener une utilisation de tout pour tout le monde. Mais c'est quelque chose qui a germé dans les années 60. Donc, pour avoir 20 ans dans les années 60, il faut être né dans les années 40. Vous voyez, Donc, je pense qu'on n'est pas tout à fait sur la même échelle. On va dire que l'Internet dans la PME, PMI, l'Internet chez le particulier, c'est né avec nous. Mais l'Internet, il n'est pas né avec nous. Alors que l'intelligence artificielle, elle est née avec nous. Et peut-être qu'il va falloir attendre longtemps pour qu'elle soit pour tout le monde et partout. Mais vu l'argent qui est investi, enfin, aujourd'hui, moi, comme beaucoup de gens, je m'amuse avec ChatGPT sur l'iPhone. Au lieu d'aller scroller TikTok, que j'ai d'ailleurs dégagé de mon iPhone, maintenant je pose des questions des fois drôles, des fois intelligentes à ChatGPT et je vois bien qu'il y a quelque chose qui est en train
Bien sûr.
de naître là-dessus. Alors, on reviendra à vous tout à l'heure
Bien sûr.
pour le troisième sujet. Maëlle, donc ce sujet du cycle de croissance.
C'est intéressant, mais je reprends à compléter ce que vous disiez parce que je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu le nouveau casque de Apple
Appel.
qui va sortir. C'est un ordinateur en 3D qui mélange de l'intelligence artificielle. Et donc, vous pourrez tout gérer avec vos mains, comme dans Minority Report, là, vous pourrez bouger avec vos mains et vous pourrez. Ce sera un nouvel ordinateur.
D'ailleurs,
Bref.
j'ai lu que vous alliez en offrir à vos partenaires pour la fin
Bien
d'année.
sûr, bien sûr. J'ai vu que c'était 3 000 euros le casque. Non, mais il y a deux points importants quand même dans ce que vous disiez. Hein. Vous avez dit il y a deux mamelles, c'est l'IA et l'ESG. Alors l'ESG, je ne sais pas si c'est par choix ou par conviction ou on nous l'impose, mais en tout cas, c'est quelque chose qui rentre dans le paysage financier actuel. On n'a pas vraiment le choix, on est obligé de s'y mettre. C'est assez drôle, on me demande toujours si nos clients ils choisissent des fonds pour leur qualité green ou pour la performance. Je trouve que ça commence à changer. Jusqu'à présent, je disais toujours que c'était vraiment, ils choisissaient d'abord la performance. C'est en train de changer. Et donc l'ESG, ça va être un point, à mon avis, le régulateur, de toute façon, nous l'impose. On va être obligé d'y passer. Ça va être un point qui va bouleverser complètement nos métiers hein, demain. Donc ça aussi, c'est un phénomène qui va créer une sorte de croissance. C'est quelque chose d'un peu nouveau, tout comme l'intelligence artificielle. Ça crée de la croissance. Alors, je ne suis pas mieux placé, comme je le dis à chaque fois, pour en parler. Mais moi, je trouve aussi que les marchés, ils sont extrêmement hauts. Ça corrige un petit peu, mais on prend les bénéfices et ça reste extrêmement haut. De là à penser qu'il y a un relais de croissance encore pour l'année prochaine, je ne sais pas. Moi, je pense que ça peut peut-être un peu corriger d'ici la fin de l'année et l'année prochaine repartir. Parce que de toute façon, les taux d'intérêt, ils vont être obligés de les rebaisser. Il y a plein de secteurs qui sont sinistrés. Hein, l'immobilier, par exemple, c'est complètement sinistré. Donc, ils vont être obligés de faire un effort. Et en faisant cet effort-là, ça va donner un appel d'air sur les marchés financiers.
Ok, alors bon, l'immobilier c'est sinistré, j'ai vraiment envie de répondre, mais je pense que c'est dans 15 jours que je répondrai à ça parce que je suis loin d'être sûr d'être aussi d'accord que ça. Et j'ai l'impression qu'on a monté quelque chose, qu'on fait monter la mousse pour quelque chose où il n'y a pas vraiment la mousse à monter, voilà, à baisser. Ok, nous les financiers, on est tellement habitués à voir des marchés baissiers, un coup c'est les États-Unis, un coup c'est les actions, un coup c'est les
Il se passe
obligations.
plus rien.
Je veux dire, hier, pardon, l'année dernière, tout le monde, c'est-à-dire tous les gens qui sont venus sur cette radio, tous les gens qui ont parlé, tous les spécialistes obligataires, les économistes et tout, ont tous fait état d'une crise obligataire historique et plus forte que jamais auparavant. C'est-à-dire, des gens venaient vous expliquer, graphique à l'appui, avec des chiffres, qu'elle avait été plus forte qu'en 1929, plus forte que tout, et qu'on n'a jamais connu une crise obligataire aussi forte que celle-là. Ça a fait quelques lignes dans les échos, un peu à droite, un peu à gauche. Les fonds obligataires ont baissé, c'est fini, c'est effacé. Donc là, on a quoi? En immobilier, on a globalement une petite baisse des prix, une forte baisse des ventes, d'ailleurs des transactions qui empêchent la baisse des prix et qui évitent un krach ou un truc comme ça. Bon, allez, je ne m'étends pas plus, mais on en parlera beaucoup plus dans 15 jours. On passe à Cyriaque maintenant. Rapidement, si vous partagez mon avis sur ce grand cycle de croissance qui s'annonce, ou si vous avez un avis différent ou opposé, et ensuite vous enchaînez tout de suite sur les GAFAM, ce que vous pensez, donc de la deuxième question, est-ce que les GAFAM sont en survie prêts et est-ce que ce sera eux les grands gagnants? Est-ce que vous pensez ça, ou est-ce que vous ne le pensez pas, ou est-ce que pour l'instant vous ne pensez rien parce que les choses ne sont pas assez claires?
Alors sur la croissance, moi je serais peut-être un peu moins optimiste que vous pour une raison qui est assez simple, hein. C'est-à-dire qu'à horizon 10 ans, oui, l'intelligence artificielle et l'intégration des enjeux écologiques vont être un booster de croissance. Je pense que c'est important. Maintenant, il faut aussi voir qu'on est dans des économies qui fondamentalement Bah, on ne sont pas des économies avec des croissances très fortes. Hein. On n'est pas des pays émergents, en tout cas dans les pays, bah, pays développés, que ce soit aux États-Unis, encore plus en zone euro, quand vous regardez la démographie, quand même un vrai facteur qui joue sur la croissance, bah, elle n'est pas favorable. Donc j'aurais tendance à dire que ça va booster un peu la croissance sur les 10 prochaines années, mais je ne pense pas que ça va multiplier par deux la croissance potentielle de la zone euro ou des États-Unis. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les marchés regardent rarement à 10 ans, on regarde plutôt à 6 mois ou à 9 mois. Et aujourd'hui, je serais peut-être un peu plus mitigé parce qu'on a un soft landing que vous citiez qui semble se matérialiser. Alors aux États-Unis, hein, vous rappelez qu'en récession, en zone euro, on est en récession, alors pour de manière très très technique, mais techniquement, si on regarde les choses, bah, on est en récession, on a 2 trimestres d'affilée qui sont négatifs de moins 0,1. Enfin, le deuxième a été révisé et nous emmène à moins 0,1, on est en récession. Donc, je pense que les indicateurs avancés, quand on regarde au-delà des PMI qui restent bien orientés, mais les indicateurs de confiance, la distribution de crédit, un certain nombre d'indicateurs me font dire qu'on pourrait avoir quelques mois un peu moins agréables au niveau économique et ça serait assez cohérent avec ce que disait Maël, donc peut-être une respiration sur les marchés à ce moment-là. Pour un rebond, une reprise sur 2024, c'est des choses, s'il n'y a pas un peu un loup dans la bergerie, un black swan, quelque chose qu'on n'a pas vu. Il faut rappeler qu'en mai, en mars, on parlait quand même d'une crise bancaire aux États-Unis, les hausses de taux que vous avez citées qui sont historiques. On n'a pas encore pris l'ampleur de l'impact que ça a sur l'ensemble de l'économie et c'est en train de se matérialiser progressivement. Donc j'aurais une vision un peu plus modérée ou un peu plus mitigée sur l'économie sur les prochains trimestres. Et pour répondre à votre deuxième question sur les GAFAM, bah, j'ai déjà en partie répondu. Pour moi, oui, ça sera les gagnants. C'est ces boîtes-là et c'est ce que salue le marché. Alors il y en aura sûrement une ou deux qui vont apparaître et qui vont vraiment bah, prendre une partie du gâteau, mais ça sera de manière assez limitée. Je pense que les investissements sont tels que pour arriver et finalement renverser la table aujourd'hui dans ce secteur de l'intelligence artificielle, ça me paraît très compliqué. Et si je dois m'exposer à cette thématique, j'ai plutôt envie de jouer à la fois les grandes entreprises, donc les GAFAM, mais également, et je trouve intéressant, un peu ceux qui vendent les pioches aux chercheurs d'or. C'est un peu la même chose sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, les microprocesseurs, le côté vraiment technique, comment on produit l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il faut comme industrie. Je pense que c'est une bonne manière de s'exposer à cette thématique aujourd'hui. Alors, Nvidia a symbolisé ça, mais il n'y a pas que ça. ASML aussi en Europe pour le coup. Il y a d'autres boîtes qui sont moins connues, mais qui peuvent permettre aussi de s'exposer là-dessus. J'aurais un portefeuille un peu mixte avec les grands gagnants qui sont assez visibles, mais aussi ceux qui fournissent ces outils qui permettent finalement de développer l'intelligence artificielle.
Ok, ben, c'est très bien. Allez, on va laisser Maël réagir sur les GAFAM. Ensuite, ça sera Bruno, puisque Bruno, comme il n'en a pas dans son portefeuille, on va voir comment il pense par rapport à ça. Donc, vous, les GAFAM, Maël?
Ben, moi, je pense qu'ils sont en train de aussi pas mal d'évoluer. Hein. Ben, je suis un peu d'accord pour dire que c'est eux qui tirent un peu aujourd'hui la croissance aux États-Unis. Il y a une concentration d'entreprises qui a beaucoup de cash, qui investit beaucoup et c'est même souvent représenté par une personne. Je trouve ça assez intéressant. À chaque fois, c'est incarné par une personne et donc en fonction je pourrais dire, de cette personne, ben, ça peut faire évoluer le cours plus ou moins à la hausse ou à la baisse. Je trouve ça assez marrant. Mais en l'occurrence, les GAFAM, ils sont à la pointe, ils ont beaucoup d'argent, et donc forcément, c'est eux qui vont financer, comme je le disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle, c'est eux qui vont mettre beaucoup d'argent sur la table, et vraisemblablement, il y aura peut-être de nouveaux entrants, espérons, mais il n'y a pas de raison de penser qu'ils ne vont pas faire encore une très belle année, et qu'ils vont tirer la croissance vers le haut.
Ok, allez Bruno, on vous laisse vous exprimer sur les GAFAM et ensuite ce sera Cyriac qui enchaînera avec son point de marché.
Alors, en fait, une fois de plus, je ne suis pas un spécialiste de ces entreprises. On les suit comme tout le monde parce qu'elles sont tellement grosses et elles sont tellement importantes qu'on ne peut que les suivre.
La
On
question,
regarde.
je rappelle quand même la question parce qu'il y a beaucoup à dire sur les GAFAM sont à surveiller de près et ils vont être les grands gagnants de l'IA. Point d'interrogation. Donc ça c'est la ligne de votre réponse.
Merci. Donc déjà, pour être un gagnant, en effet, il faut investir. Et ces gens-là investissent beaucoup plus que les autres. Si vous ne jouez pas, vous ne pouvez pas gagner. Donc ces acteurs aujourd'hui, que ce soit Amazon, que ce soit Facebook, Google ou d'autres, ont énormément investi. Et donc, comme tout acteur qui investit beaucoup, ils ont plus de chances de le trouver que celui qui ne cherche pas. Maintenant, Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est le prix de ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme vous savez, en France, on a le luxe qui a ses caractéristiques de croissance, de prix très différents. Mais il y a encore pas longtemps, on expliquait que les valos de Christian Dior ou d'Hermès étaient aussi le résultat du métavers et que demain, on ferait des sacs virtuels et tout. Donc, il y a quand même des liens. Nous, on considère que le prix payé pour ces actifs aujourd'hui est très élevé. Autant, on pouvait éventuellement se poser la question de regarder un Microsoft à 20 fois les bénéfices versus un L'Oréal à 44, même si on avait ni l'une ni l'autre. Autant, c'est vrai que sur l'évaluation de Facebook, qui pourtant a beaucoup souffert l'année dernière et qui a eu un retour incroyable cette année, ou de Google ou autre, les business models sont beaucoup moins clairs que par le passé. Quand vous êtes un investisseur, c'est quand même ce que vous regardez. Quel est votre business model, quelle sera sa rentabilité et quel est son prix aujourd'hui? On a bien compris ce qu'il voulait faire en termes d'investissement, ça je crois que tout le monde a bien compris, communique suffisamment dessus. On n'a pas encore exactement compris l'impact sur le business model actuel. Et d'ailleurs, Facebook, enfin, je trouve que la direction a été très courageuse parce qu'ils ont fait très en amont des autres beaucoup, beaucoup d'investissements. Ça leur a beaucoup coûté dans leur communication, dans leurs résultats et dans les faveurs du marché, ce qui est moins le cas cette année. Mais je crois que à la réponse, est-ce que ce seront des acteurs clés demain? La réponse est oui. Est-ce que ce sera des acteurs clés dans l'IE, pardon, la réponse est oui aussi. Vous avez raison. Après, est-ce que c'est pour autant qu'il faille investir? Nous, on ne suit pas ces valeurs-là aujourd'hui et on n'est pas investi dedans, mais on regarde les prix et les prix nous paraissent un peu déraisonnables.
D'accord, mais est-ce que, alors juste une petite réflexion et après on passe à rien, est-ce que ce n'est pas le sens de la bourse d'avoir des prix déraisonnables? Parce qu'en fin de compte, je crois d'ailleurs que c'est un jour vous qui avez fait un peu une conférence, une thématique là-dessus, en disant que sur l'efficience des marchés ou la non-efficience des marchés.
Vous avez complètement raison. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le sens de la bourse d'avoir continuellement des valeurs pas chères et des valeurs chères. Si la bourse était efficiente, on n'aurait pas beaucoup d'activités à faire, nous, gérants d'actifs. C'est-à-dire pour ça qu'on est là, c'est pour essayer de capter des inefficiences. Mais ça veut aussi dire que parfois, votre discipline de travail, votre processus vous empêche d'aller vers des valeurs qui ont atteint des prix qui sont inexplicables. Et inversement, parfois, vous tenez face à des valeurs dont personne ne veut et vous les gardez parce qu'il y a une logique d'investissement sur plusieurs années qui permettent normalement de gagner de l'argent avec ces dossiers-là. Mais l'histoire de la bourse, c'est aussi des excès. Quand vous avez Nvidia qui se paye 200 fois les bénéfices, vous savez, c'est comme 2000. Voilà, en 2000, pendant quelques jours, une valeur américaine s'était payée aussi 150 fois les bénéfices. Ça a duré à peu près 3 semaines, je crois. Comme France Télécom s'est payé 240 euros, comme Alcatel se payait 100 et Vivendi 100. Bon, donc en fait, c'est une histoire qui se renouvelle sans arrêt. Mais ce n'est pas parce que l'histoire se renouvelle sans arrêt qu'on doit participer aux excès. Là où vous avez raison, c'est que parfois, quand vous allez vendre quelque chose qui vaut 50 et qui monte à 100, vous passez pour un idiot. Quand ça vaut 150, on vous dit que vous êtes incompétent. Puis quand ça vaut 2, vous dites que c'est génial. Et on est rarement génial tous les jours. Et il faut accepter ça. Et ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est d'avoir des investissements qui soient cohérents, intelligents et dans lesquels on croit. Ici, Leonard Cohen dit souvent une chose qui est intéressante. Il dit un bon gérant, c'est un gérant qui est capable de vous expliquer pourquoi il a chaque ligne en portefeuille, par rapport à des valorisations, par rapport à des convictions, par rapport à. Bon, aujourd'hui, nous, c'est notre travail, c'est donner un prix, un actif aujourd'hui pour demain. Et il est plus difficile de donner un prix aujourd'hui pour demain à Amazon et à Meta, qui ont des business models très, très, très clairs, mais qui ont des investissements très importants, dont on connaît mal demain les impacts et sur les marges et sur les business models.
Allez, merci beaucoup. Cyriaque,
Merci.
si vous
Bonne
voulez
journée.
conclure un peu tout ce que vous avez entendu et dire une phrase ou deux, elle est la bienvenue. Et après, vous enchaînez quand vous voulez avec votre point marché.
Ok, merci. Non, j'avais rien à ajouter. Je trouve que c'était assez clair la discussion. On voit qu'il y a des certitudes, mais que le chemin pour atteindre ni la fin de l'histoire est quand même assez inconnu, la manière dont on va y arriver. Mais le fait que ça va être un game changer fondamental, ça, c'est clairement partagé par tous. Et je pense que c'est quand même le plus important. Alors, je vais revenir sur des aspects beaucoup plus proches, sur les différentes données économiques, le point marché. Alors, comme souvent, je vais commencer par une approche plutôt géographique et commencer par la première économie du monde, donc les États-Unis. On a aujourd'hui en fait des facteurs qui sont assez opposés. C'est pour ça que bah, finalement, sur l'action du soft landing, on peut avoir une vision assez opposée en fonction des arguments qu'on regarde. Le point le plus important, bah, c'est globalement que la Fed est en train de terminer son mouvement de hausse de taux. Nous, on n'anticipe pas une hausse de taux durant la réunion de mercredi. Il en reste pas moins que, elle y en aura peut-être une autre en juillet, mais c'est vraiment la queue de la comète, j'ai envie de dire. Après avoir quand même monté ses taux de manière historique, la Fed est aujourd'hui en train de parvenir à atteindre son objectif. Pour rappeler que l'inflation baisse aux États-Unis, on a le chiffre qui va être publié cette semaine, mais la dynamique, elle est quand même relativement bonne. Il reste un point négatif, c'est les salaires qui restent extrêmement élevés en termes de croissance. Enfin, la croissance des salaires reste trop importante du point de vue de la Fed, mais tous les autres facteurs, je pense principalement à la partie biens, à l'immobilier, se sont retournés et côté inflationniste aujourd'hui est en train d'être un petit peu gagné. Enfin, le combat inflationniste est en train d'être gagné du côté de la Fed. Donc, c'est une bonne nouvelle à ce niveau-là. Ce qui est une moins bonne nouvelle, c'est que ça aura un coût et que ce coût, on l'a certainement encore pas pleinement vu. Hein. C'est ce dont je parlais, ces fameuses conditions financières qui sont quand même dégradées significativement. Et on sait qu'il faut entre 12 et 24 mois pour que ça atteigne réellement l'économie réelle. Et là, on va rentrer un peu, j'ai envie de dire, dans le dur de ces hausses de taux. Et l'économie américaine et la question, c'est est-ce que l'économie américaine va être capable de finalement en survivre à ces hausses de taux sans rentrer en récession? Je pense que le débat aujourd'hui, il est assez technique, soft landing ou récession light. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut avoir une récession dure, c'est-à-dire une récession comme en 2008. De mon point de vue, je ne le crois pas. Mais on peut peut-être avoir un peu plus de mauvaises surprises que ce qu'on anticipe aujourd'hui, où finalement, le scénario de soft landing est en train vraiment de prendre le pas. Et de mon point de vue, il y a quand même eu, si vous regardez au niveau du consommateur américain, il a beaucoup puisé dans son épargne, les dernières données le montrent encore. Et donc ça, c'est quand même un facteur un peu inquiétant. Et je rajouterai un deuxième facteur inquiétant, c'est quand vous regardez l'industrie, on parlait tout à l'heure de la réindustrialisation, si vous regardez la différence entre les services et l'industrie aujourd'hui aux États-Unis, les services tournent à plein régime, mais l'industrie ne va pas bien du tout. Et en général, c'est quand même un indicateur qui est un peu plus avancé que le reste de l'économie. Donc, je ne serais pas surpris qu'au niveau des États-Unis, on ait quelques mauvaises surprises. Et c'est d'ailleurs un peu ce qu'on voit sur le marché action. On le citait, hein, si vous retraitez des quelques GAFAM d'une dizaine de grandes entreprises aux États-Unis, vous avez une croissance des actions américaines depuis des années qui est à zéro, voire légèrement négative. Donc, c'est vraiment, il ne faut pas se tromper. Hein, aujourd'hui, le marché salue vraiment quelques entreprises. Et l'ensemble de l'économie américaine n'est pas en plein boom, comme on pourrait l'espérer. Alors, ça va sûrement revenir à un moment donné. Mais entre-temps, voilà, sur les prochains trimestres, ou les prochains mois en tout cas, aux États-Unis, il y a un peu plus d'inquiétude, je trouve, dans les dernières données économiques qui ont été publiées. Du côté de la zone euro, comme je disais, on est en récession. Alors, il faut le rappeler, hein, parce que c'est vrai qu'on a été surpris très positivement par l'activité en Europe et en zone euro en particulier, parce qu'on attendait la fin du monde avec ce gaz qui a été multiplié par 10 quasiment. On est monté à quasiment 300, un peu plus de 300 même. Aujourd'hui, il cote aux alentours de 30-40, donc divisé par 10. Donc, ça, c'est la vraie bonne nouvelle. Si on vous avait dit février 2022 qu'on aurait une récession de moins 0,1 enfin, sur le premier trimestre, on aurait tout signé. C'est plutôt des bonnes nouvelles en absolu parce qu'il n'y a pas une catastrophe, mais on voit que l'Allemagne commence vraiment à avoir des problèmes de fond, que les pays qui vont bien, c'est plutôt des pays liés au tourisme. Alors, je pense à l'Italie, à l'Espagne en particulier, et même la France se porte plutôt correctement. Mais la zone euro n'est pas non plus aujourd'hui en plein boom. Je pense qu'on pourrait aussi avoir quelques surprises un peu moins positives, surtout que, à l'inverse de la Fed, la BCE, pour l'instant, continue à nous marteler des hausses de taux, alors encore au moins deux, je pense, hein, de 25 BP. Et donc, la fin des hausses de taux en zone euro, elle est certainement dans un peu plus longtemps que du côté de la Fed. Et donc, je trouve que le news flow en zone euro, il est un peu moins favorable. Un point positif, c'est pour ça que je contrebalance et que je dis que la vision est aujourd'hui un peu plus, on va dire, équilibrée, c'est la croissance des bénéfices, hein, on le cite tout à l'heure, en zone euro qui est excellente. Hein, on est sur le Stoxx 600. Alors, l'Europe a, hein, une croissance des bénéfices sur le Q1 de plus de 9%. C'est quand même un très bon chiffre. Et donc, les entreprises continuent à être capables de passer des hausses de prix malgré l'environnement économique qui n'est pas extraordinairement favorable. Maintenant, combien de temps ça dure? On voit qu'aujourd'hui, il y a des débats sur les marges. Et donc, de notre point de vue, voilà, les prochains mois sont peut-être un peu moins favorables sur les actions européennes. Je terminerai sur la Chine. La Chine, c'est un peu la déception pour le coup, parce que on attendait peut-être une reprise un peu plus forte, quelque chose de plus puissant, parce que la réouverture de l'économie après 3 ans d'une économie fermée. Soufflé aujourd'hui, donc un rebond qui a été fort, mais pas extraordinairement élevé. Alors peut-être par une volonté pour le coup des autorités chinoises de ne pas faire rentrer l'économie en surchauffe, ce qui était une bonne nouvelle. Mais par contre, derrière, ça commence un peu à se dégonfler et on voit qu'il y a des discussions sur des plans de relance en Chine, avec en particulier l'immobilier, qui inquiète les autorités. Alors, la chance des Chinois, c'est qu'ils ont une capacité d'intervention qui est extraordinairement élevée, puisqu'ils n'ont pas baissé fortement les taux durant la crise du Covid. Ils n'ont pas réinjecté beaucoup d'argent pour relancer l'économie durant la période fin 2022, début 2023. Donc, s'ils le veulent, ils le peuvent, contrairement à beaucoup d'autres pays. Mais pour l'instant, il y a une réflexion en cours et ça se matérialise, cette vision qui est quand même une petite déception, bah, pour le rappeler, sur les actions chinoises qui ont des performances proches de zéro depuis le début de l'année, alors que quand vous regardez aux États-Unis, vous êtes à plus 11, plus 12, en Europe, c'est la même chose, et si on parle du Nasdaq, on est quasiment à plus 30. Donc la Chine, qui est quand même une vraie déception de mon point de vue, à la fois d'un niveau marché et au niveau macro. Et là, à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, bah, je pense qu'on peut avoir des bonnes surprises parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attentes. Et aujourd'hui, bah, si les autorités annoncent quelque chose et que l'économie repart un peu de manière un peu plus forte, bah, sur la Chine, on peut avoir des bonnes nouvelles, et je pense en particulier au marché actions, après avoir beaucoup déçu, mais, et c'est le point le plus important, le catalyseur à ce retournement, ça serait une matérialisation au niveau des bénéfices des entreprises chinoises de cette amélioration, et pour l'instant, bah, cette amélioration macroéconomique qui est un peu faible finalement, bah, elle ne se matérialise même pas dans les résultats des entreprises chinoises. Donc voilà sur les trois grandes zones. Habituellement, je m'arrête là. Je vais juste faire un petit point en une minute sur le Japon. On n'en parle pas forcément tous les jours. Il faut se rappeler que les actions japonaises aujourd'hui, c'est plus 20%. Quand vous gardez ça en yens, hein, quand vous contrevalorisez en euros, c'est une performance un peu moins sympathique parce que le yen a eu tendance à se déprécier. Mais c'est une vraie bonne surprise avec une volatilité relativement limitée. Alors ça s'explique parce que finalement, la reprise économique en Asie, au sens large, ils en profitent, les Japonais en profitent. Et il y a un positionnement qui est en train de se revenir sur les actions japonaises de la part des investisseurs au niveau global. Et donc, c'est une bonne surprise et je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à regarder aujourd'hui au Japon. Alors, même si, comme on disait, il faut regarder toujours le lien entre performance et réalité économique, il y a une partie valorisation qui est à prendre en compte, mais la valorisation des actions japonaises n'est pas extrêmement élevée aujourd'hui. Et donc, il peut y avoir des bonnes surprises qui se poursuivent au Japon parce qu'une économie qui tourne bien avec finalement bah, des entreprises qui sont en train de produire des résultats et un positionnement marché qui n'est pas très long des actifs japonais. Donc voilà, une petite note sur le Japon, parce que c'est une économie, une situation au niveau des marchés qui me semble intéressante aujourd'hui à suivre.
Eh bien, merci. Merci pour ce tour. Alors moi, j'ai quelques petites réflexions à faire. Quand vous parlez d'une hausse de 11 à 12% des marchés américains, si vous enlevez les GAFAM, on est plutôt à 2 ou 3%. Et c'est pour ça que le Nasdaq monte fort, parce que les GAFAM, ils sont aussi représentés. Avec cette histoire du gaz, alors bon, ça n'engage que moi, mais moi j'ai l'impression que depuis le début, on nous a pris pour des jambons avec cette histoire du gaz et qu'on a plus payé un problème technique de calcul de prix, de manière dont façonner le prix, même si on a pu avoir un petit peu peur au début quand on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. Mais en fin de compte, du gaz, il y en a autant qu'on veut dans le monde. Bon, alors ça aurait été un peu plus compliqué de l'acheminer, un peu plus cher, mais le souci, c'est vraiment pas ça. Et ce qui me donne envie de dire que j'ai un peu raison, c'est que le gazoduc, il a été détruit par les Ukrainiens à 9 chances sur 10, c'est ce qu'on entend à peu près partout, et qu'ils ne l'ont sans doute pas fait avec la bénédiction des Américains, mais si les Américains leur avaient interdit de le faire, ils ne l'auraient pas fait. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc l'énergie, c'est vraiment quelque chose de particulier, et je pense que d'ailleurs, assez rapidement, dans 6 mois, un an, il y aura des réunions en Europe pour appréhender le prix de l'énergie différemment. Quand vous lisez un petit peu ce qui s'est passé sur EDF, et j'ai envie de dire là, pas la faillite, parce que ça n'en est pas une, mais si l'État n'était pas là, ça en serait presque une. C'est aussi par rapport à des questions juste législatives, de prix auxquels ils produisent, de prix auxquels ils vendent, et des choses comme ça. Donc voilà un petit peu pour réagir à chaud. Après, sur la réalité des marchés, sur leur évolution future, là, on va passer la parole à Bruno. et on va voir un petit peu ce que lui en pense, ce que eux en pensent dans sa société de gestion. D'abord sur ce qu'on a vu depuis un petit peu les 2-3 derniers mois, ou même depuis des années si vous voulez, et de ce à quoi on peut s'attendre pour les 6 prochains mois.
Écoutez, nous déjà, on a trouvé que les 3 derniers mois ressemblaient beaucoup aux 10 dernières années. C'est-à-dire qu'on a tendance quand même toujours à vouloir survendre la peur et à coller ça à tout le marché. Vous avez raison de le signer pour le gaz. Mais finalement, le gaz, c'était le gaz. Aujourd'hui, c'était les banques. Il y aura toujours quelque chose. Indépendamment des tripes pour des jambons sur le gaz, ce qu'on peut constater avec certitude, c'est que pendant 2 mois, on nous a dit qu'on aurait pu produire, qu'on ne serait pas chauffé. Et lorsqu'on vous a expliqué que les réserves de gaz en Italie, en Allemagne et en France avaient été atteintes avec 3 mois d'avance, ça a pris 2 lignes dans les médias. Donc en fait, vous avez une information anxiogène qui est surtraitée et une inflation rassurante qui est complètement éclipsée. Cette année, on a connu à peu près la même chose. Il y a un vrai problème sur l'évaluation du marché. C'est-à-dire que le marché européen et français est particulièrement cher, mais avec à l'intérieur des valeurs qui sont excessivement chères et d'autres qui ne sont pas regardées. La visibilité et la croissance est aujourd'hui excessivement chère. Ce sont des entreprises qui sont de très belles entreprises, qui sont très bien gérées. Vous parlez tout à l'heure d'immobilier. Si vous avez un appartement en plein centre de Lisbonne qui se paye 350 000 euros le mètre carré, on a beau être en plein centre très bien passé, ça va paraître très cher. Bon, ces valeurs aujourd'hui se payent 350 000 euros le mètre carré. Et en fait, elles ne sont pas achetées pour ce qu'elles sont, elles sont achetées pour le côté protecteur ou pour le côté refuge. D'ailleurs, la surperformance des valeurs de croissance en Europe, elle s'est faite pendant la crise bancaire. Ça me permet d'aborder le thème de la crise bancaire puisque vous avez eu là aussi une peur qui a été survendue. L'ensemble des médias, qu'ils soient presse, papier, journaux, télévisés, radio, autres, vous ont expliqué qu'on retrouvait une crise financière il y a quelques semaines. Sur le cas d'SVB, dont tout le monde connaissait la difficulté déjà depuis plusieurs mois, il avait carrément le cours de bourse, idem pour Crédit Suisse. Et finalement, ça a contaminé tout le secteur européen bancaire. Et vous avez aujourd'hui des BNP, des sociétés générales qui sont à des niveaux de prix qui ont rarement été aussi bas. Pour vous donner un exemple, BNP Paribas, entre ses rachats d'actions et son dividende, d'ici la fin d'année, ça représente 15% de la capitale boursière. Une valeur comme ArcelorMittal, sur les 3 dernières années, c'est 30% du capital racheté par la famille. Il y a comme ça beaucoup d'éléments qui sont rassurants sur les entreprises assez peu détenues. Et donc, nous, on croit qu'on va avoir dans les prochains mois, alors nous, sur l'aspect risque, vous le savez qu'on le suit beaucoup, de 0 à 5, on est toujours proche de 0, donc il n'y a pas de risque particulier dans le marché à l'heure où je vous parle. On pense que les taux devraient continuer de monter un tout petit peu. Il y a un vrai quiproquo selon nous sur les taux, c'est-à-dire que les gens ont toujours que les taux, ce sont les taux courts, plus l'inflation, plus le prime de risque, plus la croissance. Aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que les taux ne devraient pas être à 3,2, ou ils n'auraient jamais dû être à 3 il y a quelques semaines. Donc en fait, ils sont toujours administrés par les banquiers centraux, et c'est une bonne chose. Mais pour nous, le niveau normal des taux 10 ans en France serait plutôt autour de 3,20, 3,30, voire 3,40. Donc il y a encore un petit chemin à faire, et d'ailleurs, ça mène à dire une chose, c'est que sur l'heure de croissance, on ne peut pas valoriser ces valeurs avec des 3 à 3,5 comme on le faisait les taux à 0. Donc ça les a rendus encore plus chers. Et dans cet univers, nous, on croit que la croissance ne va pas s'écrouler. On pense que oui, on est sur un ralentissement important qui a été d'ailleurs voulu et organisé par les banquiers centraux pour juguler l'inflation, en tout cas une partie de l'inflation, et que malgré tout, les entreprises aujourd'hui ne sont pas structurées et gérées comme elles l'étaient par le passé. Elles sont beaucoup mieux gérées, elles délivrent beaucoup plus de résultats et elles s'adaptent surtout beaucoup mieux aux différents cycles économiques. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on est en effet parti sur un cycle pour certaines entreprises peu détenues extrêmement bénéfique. Je pense notamment à des valeurs plus cycliques, plus industrielles et plus financières. Les banques en Europe aujourd'hui sont très très peu chères, avec en plus des dividendes extrêmement intéressants. Et sauf risque particulier, ce qu'on surveille évidemment tous les jours, probablement lié peut-être à l'endettement qui sont assez colossaux, nous on est très confiants. On a une exposition dans notre fonds qui peut être investi de 0 à 100% d'actions, on est exposé à 75% d'actions. On est plutôt des fourchettes hautes d'investissement. Et puis, il y a un facteur qui est extrêmement intéressant. Je n'ai pas le graphique pour vous le montrer sous les yeux, mais je vais vous le commenter très rapidement. Toute la hausse du marché de ces derniers mois, elle s'est faite sans investisseurs. C'est-à-dire que si vous prenez les portefeuilles des différents clients, des différents fonds diversifiés hautes, les gens n'ont rarement été aussi peu investis. Ce qui, nous, a un côté extrêmement rassurant, ça veut dire qu'en fait, on va avoir des acteurs qui vont courir dans le marché parce que quand le marché est à 12-13% et que vous n'êtes pas investi, ça devient compliqué de tenir des positions. Et d'ailleurs, c'est un peu le débat qu'on a vu plusieurs fois dans votre émission. Quand on veut faire du tactique sur les marchés, quand on sort, c'est très difficile de revenir. Parce que souvent, les raisons qui font sortir sont celles qui font rentrer inversement. Donc, c'est compliqué d'être cohérent et d'avoir une vraie discipline de travail. Nous, on considère qu'on a un gros chemin à faire. C'est simple, hein, sur les 20 titres qu'on a en portefeuille, on a un potentiel de l'ordre de 25 à 30%. On parle souvent de Valeo, mais on peut aussi parler d'Infineon. Une boîte comme Infineon qui a revu ses résultats, ses marges et ses perspectives de croissance pour toute l'année 2023. il y a quelques jours déjà. Mercedes, pareil. On a comme ça beaucoup d'entreprises qui sont extrêmement bien gérées, qui ont des prix très attractifs et qui sont assez peu détenues, contrairement à des valeurs de croissance qui, elles, sont dans tous les portefeuilles et qui nous paraissent à des prix très excessifs.
Alors, je vais vous arrêter là, Bruno, parce qu'on est en train de dévier un petit peu sur la présentation du fonds. On va demander à Maëlle de conclure un peu sur ce point marché, sur les différentes choses qui ont été dites. Et ensuite, on revient à vous pour le fonds.
J'ai trouvé que c'était un peu pessimiste quand même, ce point marché. Mis à part le Japon, c'était un peu la cata partout. Donc, je ne suis pas aussi noir dans ma vue, ma vision un peu des marchés. Moi, je, encore une fois, ma maigre analyse, c'est de dire que là, les taux, ils ont quand même bien monté. Ça commence à se stabiliser. Moi, j'anticipe on en a déjà parlé à plusieurs reprises, hein, dans les différentes émissions. Moi, j'anticipe une baisse des taux en début d'année prochaine, fin d'année, début d'année prochaine, pour relancer un peu certains secteurs. Je ne donnerai pas de nom de secteur, mais on en parlera dans 15 jours, si j'ai bien compris, pour relancer certains secteurs et puis redonner un peu une dynamique sur les marchés. Le côté positif, c'est les différents points, les différents axes de création de croissance que je trouve hyper intéressant. Et puis, mine de rien, le marché, il est quand même hyper dynamique. Ça bouge quand même beaucoup. Donc, les États-Unis, ils ont eu le plafond de la dette, ils se sont mis d'accord comme à chaque fois. Donc, ça a baissé, paf, c'est reparti. Donc, ça, c'est réglé. Il va y avoir, en Europe, on n'a pas d'élection prochainement. Donc, je ne vois pas pourquoi on aurait de problèmes. Et puis, la Chine, ils ont plein de cash, ils ont plein d'argent. Donc, ils aideront leurs différentes entreprises.
Tout le monde a plein d'argent.
Bah, on n'en a pas, mais on arrive à en créer facilement. Mais là, pour le coup, la Chine, ils ont beaucoup d'argent. Donc, ils vont arriver à les Américains, ils en ont beaucoup, mais ça leur pose un problème tous les 4 ans. Quoi.
L'argent, il n'est peut-être pas au bon endroit, il n'est peut-être pas là où il faut, il n'est peut-être pas réparti comme il faut, mais en fin de compte, il y en a beaucoup partout et il y en a même peut-être trop partout. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a souvent des problèmes et des changements. Merci beaucoup, Maëlle. On vous a gardé un petit peu plus longtemps que prévu. On vous dit à très bientôt. On se voit dans 15 jours pour la dernière de l'année, où on fera une émission un petit peu spéciale, où on abordera plus de sujets, on essaiera de lui donner une dynamique plus forte. Et maintenant, on va terminer cette émission avec la présentation du fonds Ginger, dont Bruno Zaraya s'est un habitué, il vient nous voir à toutes les saisons, nous parler de son fonds, un fonds qu'on connaît bien, un fonds qu'on apprécie, un fonds qui est beaucoup répandu, c'est-à-dire que ça fait partie des fonds, peut-être pas les plus gros fonds, mais en tout cas, ça fait partie des fonds qui sont détenus par le plus grand nom chez nous, donc beaucoup de gens en ont, même si c'est que un petit peu. Et voilà, donc c'est un fonds qui plaît dans son approche. Après, voilà, il faut l'intégrer dans les choses. Avant que vous commenciez, moi j'ai deux questions à vous poser, toutes petites. Donc, Ginger Active 360, c'est le nom officiel?
Oui, tout à fait.
Alors, Ginger, on en avait déjà parlé. 360, j'imagine, c'est parce que vous vouliez donner l'impression d'avoir un tour complet et actif. Comment on est arrivé à cette création de Ginger Active 360?
Mais en fait, par définition, le fonds est un fonds qui peut être, c'est un fonds carte blanche qui peut être investi de 0 à 100% sur des actions, des obligations, des convertibles, du cash, des taux. Donc, on est capable d'investir sur l'ensemble des actifs dits liquides ou en tout cas facilement lisibles. Il n'y a pas de produits complexes, on n'a pas de dérivés d'options ou autre. Donc, on a des choses très simples en portefeuille. Et donc, comme on peut être investi sur tous les actifs, on a ce côté un peu 360 degrés dans les actifs. Et actifs, l'ensemble des actifs sont couverts. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ce fonds comme ça. C'est assez difficile de gérer un fonds comme ça, il faut être honnête avec vous. Aujourd'hui, il y en a très, très peu en Europe. Même en France, les fonds carte blanche 0, 100% action, c'est assez complexe, surtout quand vous n'avez pas de gamme et que vous avez que ce fonds-là. Donc, du coup, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on l'a pensé comme étant un fonds de portefeuille qui va venir compléter quasiment toutes les briques élémentaires d'un portefeuille. Quand vous construisez une location d'acquis, c'est un peu comme construire une maison. Une maison avec 16 salles de bain, ça n'a pas tellement de sens. En revanche, on voit une salle de bain, une cuisine, une chambre, deux chambres, trois chambres. Voilà. Nous, on est une des pièces de la maison. On essaie de la faire la plus solide possible et la plus cohérente possible. Donc, on investit de 0 à 100% et on va investir l'expo sur le marché actions en fonction du risque que nous, on identifie. Si je dirais, pour donner une image un peu à vos auditeurs, je vais en donner deux. Je dirais qu'on essaie de dissocier la peur des risques. C'est-à-dire qu'en fait, vu comment l'information est traitée quotidiennement, on a tendance à vouloir surestimer les peurs. Nous, on essaie de ne pas s'approprier ces peurs. On essaie de travailler avec un cap, une boussole qui est un peu différente. Et en fait, si vous voulez, les gens parlent beaucoup de volatilité. Alors d'abord, quand les taux étaient ce qu'ils étaient, il fallait acheter de la volatilité parce qu'il n'y a que ça qui allait être payant. Et je pense que maintenant, on le constate, hein, le fonds sur 3 ans, aujourd'hui, il est premier de sa catégorie avec des performances qui sont assez exceptionnelles puisque sur 3 ans,
alors, autour de… Le nom de la catégorie,
C'est le fonds diversifié mixte eurodynamique. Donc, on est flexible eurodynamique, donc c'est un fonds flexible. Donc, il y a à peu près 200 fonds dans la catégorie. À titre d'exemple, le fonds doit faire environ 15% par an annualisé sur 3 ans, alors qu'à la catégorie, il doit être entre 3 et 4. Ce qui montre pas qu'on est des génies, c'est pas du tout pour ça que je dis ça, je dis beaucoup d'humilité, mais ça veut dire que les gens n'ont pas cru au marché. On peut pas leur en vouloir. Sur 3 ans, quand on voit tout ce qui s'est passé, beaucoup d'acteurs ont préféré rester peu investis, voire pas investis du tout. Ça n'a pas été notre choix. Nous, on a considéré que les éléments qui étaient face à nous, aussi bien la guerre en Ukraine, l'inflation, l'épisode du gaz, l'épisode cette année des crises bancaires, étaient des peurs qu'on comprenait, mais auxquelles on n'adhérait pas. Donc, on a gardé le cap, on a conservé nos positions. Et aujourd'hui, l'ambition pour nous, c'est d'être ce fonds de portefeuille qui va être capable de détenir des valeurs souvent dont personne ne veut. Plusieurs fois, on a échangé ensemble, Bernard, sur Saint-Gobain, qui n'est pas la faveur d'investissement, sur Valeo, qui n'était pas regardé, et c'était très juste à l'époque aussi, ça l'est encore parfois aujourd'hui. Mais nous, on est là pour agréger des valeurs. En général, on est entre 25 et 27 titres, donc c'est très concentré. Et on a des valeurs qui vont pouvoir performer dans un mois, dans 2 mois, d'autres dans 6 mois. L'idée étant d'avoir une performance cohérente et construite dans le temps. Le private equity est très à la mode chez tous nos clients depuis quelques temps. Nous, en fait, on fait du private equity côté. C'est-à-dire qu'on va investir dans des entreprises qui ont des managements disruptifs ou qui ont des managements en transition sur d'autres activités. On va adhérer ou pas à ces projets. Quand on y adhère, on essaie de comprendre le prix de ces projets. Et quand on considère que le prix aujourd'hui laisse une opportunité importante par rapport à un prix futur, eh ben on se permet d'investir dans ces entreprises et de conserver et de les garder dans la durée au sein de notre portefeuille. Et donc aujourd'hui, nous sommes investis à 76% en actions parce qu'on considère encore une fois que le risque n'est pas présent dans le marché. En tout cas, le risque, nous, on cherche à identifier, le risque systémique est si rare mais qui est si dur pour tout investisseur. Et on accepte des épisodes de volatilité et de crainte parce qu'on considère que lorsqu'on sortira de cet épisode-là, un peu comme pour les bancaires il y a quelques jours, il y a quelques semaines, on sortira plus haut qu'on l'était avant. Et donc nous, ce que l'on cherche pour nos clients, c'est d'avoir le meilleur couple rendement-risque en acceptant ces épisodes parce qu'on n'est pas capable de faire du tactique et de bouger tous les jours. Mais en revanche, on est capable d'identifier les pépites de demain qui nous permettent, qu'on croit qu'elles sont attractives.
Très bien. Alors, tout à l'heure, vous avez dit le fonds est à 75% action.
Oui.
Et qu'est-ce que c'est les autres 25%? Vous les placez comment?
Les 25% aujourd'hui, c'est uniquement en taux, donc en emprunt d'État européen, italien et portugais. Pourquoi on est sur les taux et pas sur les obligations corporates? On considère qu'on pourrait acheter une obligation Saint-Gobain, comme certains le font, Daimler, Danone ou autre. On considère que ces obligations sont très détenues. On le voit d'ailleurs avec le nombre de fonds qui sont créés, que les opportunités ne sont pas flagrantes. On préfère avoir l'action Saint-Gobain que son obligation. Et nous, on considère que les taux doivent encore monter un tout petit peu. Donc, on est extrêmement vigilant pour ne pas perdre d'argent sur cet actif-là. On fait du portage de 3 ans, ce qui nous permet d'avoir en gros sur 3 ans entre 3 et 4% par an sur ce cash-là, sans prendre le moindre risque.
Pourquoi vous dites sans prendre le moindre risque? Si demain, il monte les taux de 0,25, ça automatiquement, mécaniquement, ça va un peu baisser, non?
Oui, tout à fait, mais c'est pour ça qu'on est sur du portage. En fait, on va prendre par exemple une obligation italienne sur 2 ans et demi et on sait qu'on va la garder jusqu'à maturité. Donc l'obligation bouge dans le portefeuille, il y aura un peu de volatilité, mais on sait que sur les 2 ans et demi, on aura entre 3 et 4% de performances qui seront faites parce qu'on a la visibilité sur les capacités à conserver cette ligne-là qui sont des lignes très minoritaires dans le portefeuille. Et donc on est vraiment en portage, si vous voulez. Contrairement à une stratégie active de dire on veut bouger tous les jours et profiter de la courbe des taux. Là, on dit, voilà, l'État italien nous offre, je ne sais plus, je crois que c'est entre 3,8 et 4,2 de rémunération sur l'obligation qu'on avait obtenue, à moins que l'État italien fasse faillite, ce qui nous paraît nous propre à la court terme, et j'espère qu'on le verra venir, ça doit arriver, mais en tout cas, c'est vraiment c'est comme quand un client va prendre un compte à terme, voilà, vous avez une rentabilité qui n'est pas exceptionnelle, mais qui n'est pas non plus nulle aujourd'hui au regard des taux, et qui permet de tilter un peu le cash, sachant que nous, le gros de la performance du fonds, on le fera sur la partie action aujourd'hui.
D'accord, mais ça, c'est pas un peu contraire à votre devise. Ça veut dire que si demain vous pensez qu'il faut vous investir à plus que 75, et je ne vais pas parler de 77 ou 79, mais si vous êtes ultra confiant sur le marché et que vous vouliez monter à 85, 87, 89, 97, je crois que vous avez été investi à certains moments quasiment à 100%.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
En faisant du portage, vous ne pourriez pas, puisque vous serez obligé de vendre.
Alors, vous avez raison en analysant comme ça, mais si on réfléchit jusqu'au bout de l'idée, c'est que si on veut investir plus, ça veut dire qu'on est sur un momentum de marché qui est plus intéressant. Et ça veut dire probablement qu'on aura des capacités à faire de la performance sur l'oblique. Nous, on est là pour acheter le meilleur couple rendement-risque. Si je perds 1 sur une oblique et que je perds 10 sur une action, l'arbitrage est vite fait pour moi. Ce qui sera embêtant, c'est de perdre 1 sur une obligation, de perdre 4 sur une action. Mais moi, je suis sans cesse de l'arbitrage par rapport à ce qui est le plus intéressant pour mes clients. Et donc aujourd'hui, par rapport à la philosophie et par rapport au risque identifié, on est investi à 75%, d'autant que les valeurs qu'on a en portefeuille ont un très très fort delta par rapport au marché, ce qui nous permet, si vous voulez, lorsque le marché est haussier sur notre titre, de souvent faire entre 120 et 130% de la hausse du marché avec 75% d'exposition. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire le meilleur couple rendement-risque pour nos clients. Et aujourd'hui, sur ce portage, alors je parlais de portage, mais ce n'est pas les 25% qui ont la même date, le même moment. Donc si vous voulez réinvestir 4, 5, 6, 7, 10%. Vous voyez, aujourd'hui, on était à 82% en actions, on est passé à 75% uniquement avec les dividendes, pour vous montrer le poids des dividendes et l'importance que ça peut avoir en portefeuille. Donc, on attend un moment de marché important pour racheter certains titres et pour repasser autour des 82, 83. Donc, c'est quelque chose qui est anticipé et que l'on prévoit de faire dans les prochains jours ou les prochaines semaines.
D'accord. Alors, tout à l'heure, en participant au débat, j'ai noté trois choses. Si j'ai bien noté, vous avez parlé de 26 titres
Oui,
dans votre fonds. Donc là, on est
tout à fait.
vraiment dans l'ultra concentration. Ça veut dire que le titre le plus représenté, il doit être pas loin ou autour de 10%, c'est ça?
On n'est pas loin, c'est-à-dire que le titre présenté, c'est c'était général autour de 7-8%, tout à
Ah,
fait. Mais on a
7%.
plusieurs titres à 7-8% presque.
D'accord. Donc on n'est quand même pas si près que ça des 10%. Et d'ailleurs, cette règle de 10% par titre, elle est inscrite dans le marbre. Chez vous pourriez être à 12-13% par titre, voire vous l'avez déjà été.
Non, on ne l'a jamais été parce que, si vous voulez, vous avez raison de soulever ce problème. C'est une difficulté quand vous êtes surtout sur des gestions dites plus indicielles parce que dans le CAC 40, par exemple, LVMH est 16%, 17%, L'Oréal pareil, et que donc là, pour vous retrouver un indice, il faudrait surinvestir. Ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Société Générale, dans le CAC 40, ça doit être 0,3 ou 0,4% du CAC. Nous, on a 7%. Pas besoin d'être à 10% sur le dossier, si vous voulez. Vous avez déjà une telle surpondération par rapport à l'indice et par rapport aux perspectives qu'il y a. Pareil pour Arcelor, pareil pour BNP Paribas. Donc, si vous voulez, on a des entreprises qui sont très délaissées et peu détenues. Elles sont aujourd'hui minoritaires dans les indices et majoritaires dans notre fonds. Donc, nous, on travaille vraiment sur quelques dossiers qui sont autour de 6-7%, qui sont très importants pour nous. On a pas mal de dossiers qui sont autour de 4 ou 5%. Et puis, on a un petit fonds de portefeuille où la ligne est entre 3 et 4%. Et ça dépend des potentiels, des catalystes et de nos convictions.
D'accord. Et donc, dernière fois qu'on avait fait un point, vous étiez très, très favorable à l'univers des banques. Vous avez même beaucoup publié là-dessus. Vous avez beaucoup expliqué. Vous avez même, peut-être envie de dire, évangélisé pour ce retour que les banques allaient maintenant manger leur pain blanc. Vous avez toujours une position, une conviction aussi forte sur les banques. Et
Toujours aussi
l'univers
forte.
bancaire représente combien du coup?
Toujours aussi forte. On a resté le lien en 15, c'est environ 27% du portefeuille.
Pardon, j'ai pas
Sur
entendu.
principe, 27% du portefeuille,
27%.
sur 5 titres, à savoir Société Générale, BNP, ING, Intesa et BBVA. Ce sont des titres qu'on aime beaucoup, qui nous ont énormément rassurés dans leur communication des résultats au premier trimestre. C'est déjà le cas l'année dernière, mais enfin BNP, c'est sur un rythme de quasiment 12-13 milliards de résultats par an, c'est colossal. Des rachats d'actions importants, même si ce n'est pas un objectif premier, enfin en tout cas, elles ont les moyens de le faire. Des dividendes importants, des décotes très importantes. Les banques aujourd'hui ne sont plus les banques d'il y a 5 ou 6 ans. D'ailleurs, les réglementations Bâle 2, Bâle 3 ont mis un peu une chape de plomb sur la valorisation, mais elles ont apporté en échange de ça des caractéristiques beaucoup moins risquées. Je pense qu'à un moment donné, les gens vont commencer à l'intégrer et le comprendre. Il n'est évidemment pas normal de voir de telles remontées des taux et des banques qui n'en profitent pas au niveau des indices boursiers. C'était le cas avant la crise bancaire. La crise bancaire a impacté fortement les valorisations. Vous savez, c'est un peu comme sur une scène de crime. Les gens n'ont pas envie forcément de rien tout de suite. On est sur la scène de crime bancaire avec la peur SVB, Deutsche Bank, Crédit Suisse ou autre. Je pense qu'avec le temps et la poussière qui retombe, on va se rendre compte que ces valos sont vraiment très peu chers, extrêmement attractives et extrêmement résilientes. Donc nous, on considère que ce sera un moteur important de performance dans les prochaines semaines.
D'accord. Vous avez la même attitude vis-à-vis du secteur des assurances ou pas du tout?
Non, c'est un petit peu différent pour le coup. On n'est pas très présent sur l'assureur, on n'a pas d'AXA, on avait un peu d'Allianz qu'on n'a plus. On est plutôt bancaire parce qu'on considère vraiment que la décote est beaucoup plus importante. Les assureurs, c'est encore un peu différent parce qu'on a beaucoup, beaucoup de niveaux de sinistralité, notamment sur l'environnemental ou autre, qui impacte les résultats, ce qui n'est pas le cas sur des banques aujourd'hui. Alors, on peut avoir d'autres choses, mais la réglementation n'est pas la même. Aujourd'hui, nous, on est beaucoup plus bancaire qu'assureur. Nous, on aime beaucoup les banques et les valeurs cycliques et industrielles.
D'accord. Et est-ce que vous vous attendez à des opérations de fusion-acquisition dans les banques ou pas trop, et c'est par elles-mêmes qu'elles vont
C'est
s'améliorer?
une excellente question. Je pense qu'on doit s'y attendre et je pense que cela se préparait. Elles auraient dû intervenir déjà il y a quelques temps parce que, il y avait de telles décotes, mais le moment où il y avait des décotes, il y avait tellement de peur sur les marchés qu'une opération financière aurait plus apporté un côté anxiogène au secteur plutôt qu'autre chose. On aurait dit, c'est un peu comme Credit Suisse et UBS, c'est par peur qu'on fait ça. Je crois que les valorisations et même le secteur en Europe est fait pour qu'il y ait des concentrations. Je crois que l'Europe a voulu faire un emprunt européen pendant le Covid, donc c'était un premier pas justement vers l'européation du système industriel financier français, européen, pardon. Et je pense que je ne serais pas très surpris de voir une grande banque italienne, une grande banque française ou une grande banque espagnole, une grande banque française. Ça me paraît assez cohérent de vouloir créer un gérant de l'industrie européenne bancaire.
D'accord. Alors, tout à l'heure aussi, vous avez parlé de deux titres. Vous avez parlé de Valeo et d'Arcelor. Et en parlant d'Arcelor, vous aviez dit, sur les 3 dernières années, ils ont racheté ou ils se sont renforcés de 30% de leur capital, par le biais de dividendes ou de choses comme ça. Vous voulez bien reprendre le sujet et nous l'expliquer, plus en détail?
Alors en fait, il faut d'abord comprendre que ArcelorMittal, c'est une entreprise familiale. C'est la famille Mittal qui est majoritaire dans Arcelor, en tout cas qui détient une grande partie du capital. Et quand vous avez une entreprise familiale ou pas, vous avez différentes possibilités pour rémunérer ou fidéliser votre actionnaire. Vous pouvez distribuer du dividende, donc du rendement, certains le font, les bancaires, les valeurs télécom. Vous pouvez racheter vos titres. En rachetant vos titres et en les annulant, vous allez augmenter ce qui reste présent automatiquement. Et donc, ben, Arcelor, par exemple, a racheté 30% de sa capitalisation boursière ces 3 dernières années. Donc, c'est énorme. Ça veut dire une chose, c'est-à-dire qu'il n'y a que Arcelor qui a acheté du Arcelor, en gros, hein. Il n'y a personne qui a dû acheter du Arcelor dans les portefeuilles. Quand on voit le cours de bourse et l'évolution de la valeur, on se dit qu'il n'y a quasiment qu'eux qui ont acheté la valeur. Mais d'abord, un, en général, quand vous êtes une famille, vous n'êtes pas un mécène, si vous faites ça, si vous avez un peu de visibilité sur votre activité, ce que vous faites, et je pense que Arcelor, de plus en plus, est une valeur non cyclique. L'Europe a beaucoup investi sur l'acier vert, donc a financé la R&D d'Arcelor, qui en profite avec un acier vert qui est exceptionnel et qui aujourd'hui, ils sont leaders sur ça pendant un bon moment, je pense. Et donc, c'est une façon aussi de rendre l'entreprise plus attractive. Et ce n'est pas quelque chose qui a été intégré par le marché, ce n'est pas vraiment regardé. Et je pense que sur les valeurs cycliques un peu difficiles comme ça, souvent, c'est intégré très rapidement et vous avez des rebonds qui sont très violents en peu de temps. On est sur un marché qui est construit comme ça. Par le passé, il y a 15 ou 20 ans, vous avez des valeurs qui étaient appréciées dans la durée. Aujourd'hui, une valeur comme Saint-Gobain, on parlait de Valeo, peuvent ne rien faire pendant quelques temps et perdre 40% en 3 semaines, surtout sur un Valeo dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est une petite entreprise par rapport aux autres. Hein, c'est 12 milliards, même pas. D'ailleurs, je crois que ça va être autour de 10 milliards de capitalisation. Donc, c'est plutôt petit. Alors, c'est gros, bien sûr, mais par rapport à un Hermès qui fait 230 milliards, par exemple, vous voyez, c'est assez tout petit. Et il est évidemment plus facile de vendre à découvert une petite entreprise qu'une grande. Et on sait que Valeo, beaucoup d'acteurs américains s'amusent à shorter l'entreprise. Ça pèse quand on l'a en portefeuille, mais ça veut dire aussi que quand vous rachetez vos shorts, automatiquement, vous achetez l'entreprise. Et ça fait des bonds de va-et-vient importants. Nous, on l'a en portefeuille, on l'aime énormément. Elle annonçait ses résultats qui étaient très bons il y a quelques semaines, avec en plus un carnet de commandes plein jusqu'en 2025. Alors après, on peut ne pas croire au carnet de commandes, mais en tout cas, nous, on a décidé d'y croire parce qu'il y a des éléments qui sont factuels qui nous permettent d'y croire. Je crois que Valeo a changé son président il y a quelques semaines et qu'on a besoin de retrouver la confiance avec un nouveau président, ce qui est normal, mais on est très vigilant sur le titre, mais on l'aime beaucoup.
Je vais revenir sur Mittal. Est-ce que vous pensez que sur une société comme Mittal, parce que bon, racheter 30% de ses titres, ça veut dire qu'il faut disposer ou d'un cash fantastique ou d'une capacité à emprunter fantastique. Donc, je ne sais pas s'ils ont racheté avec du cash qu'ils possédaient ou s'ils ont racheté quand les taux étaient à moins de 1% et qu'ils ont fait un emprunt sur
Les
7-8
deux, les deux.
comme ça. Mais est-ce que vous pensez que ces sociétés, on peut s'attendre à des sorties de la cote? Un peu comme avait fait Xavier Niel, ou à un moment, et en fin de compte, il l'a fait en voyant très bien qu'il allait racheter pour pas cher, ensuite distribuer du dividende, et que globalement, il faisait une excellente affaire. En plus, il a été gentleman, puisqu'il a offert une prime aux actionnaires très forte par rapport au dernier cours, parce que son cours était un peu délaissé. Et comme vous dites, bon, si on vous écoute, ArcelorMittal, le cours, il est un peu délaissé aussi, Valeo, le cours, il est un peu délaissé. Et personne s'occupe d'eux. Donc, est-ce que vous pensez que ces familles peuvent se réemparer de leur société?
C'est une possibilité. J'avoue que autant je pense que Xavier Niel est seul maître à bord de ce qu'il fait. La famille Tell est beaucoup plus grande, donc peut-être qu'ils n'ont pas les intérêts convergents tous vers la même chose. Et donc, ça serait peut-être plus difficile à mettre en place. Et puis, les taux sont à 4% aujourd'hui. Donc, l'opération serait plus coûteuse que celle d'Iliad il y a quelques mois. Je pense que c'est une possibilité, moins sur un Valeo. plus sur des small et micro cap où le private equity était tellement cher que ils sont tournés vers le côté mais micro-entreprise parce qu'il y avait beaucoup d'intérêts et beaucoup d'entreprises qui étaient délaissées. Sur Arcelor, pour être honnête avec vous, je connais pas assez les intérêts de la famille, leurs ambitions et qui pourraient faire qu'ils aient envie de faire ça. Je crois que déjà ce qu'ils font, c'est extrêmement intéressant pour eux parce que ça les renforce dans le capital, ça remonte le dividende qu'ils font plus dans leur famille. Donc ils arrivent à faire quelque part du private equity côté. Et si un jour ils n'ont plus d'intérêt, mais l'entreprise est beaucoup plus grosse et ils ont moins de capital probablement que ce que Monsieur Niel avait dans Iliad.
D'accord. Alors, on approche la fin là. Votre résultat en year to date, il est à combien?
On est autour de 8,5% depuis le début de l'année. Ce qui, ce qui, ce qui, ce
Et par
qui,
rapport
on...
à votre catégorie, vous êtes bon, ça me paraît un très bon résultat. Donc, est-ce que vous êtes premier? Est-ce que vous êtes dans le premier quartile?
On est dans le premier décile même, on est plutôt dans le très haut
Premier.
du classement avec cette performance, mais ce n'est pas lié à nos compétences parce que nous, pour l'heure, on est très value et c'est plutôt la croissance, donc on a un peu de retard sur ce qu'on voudrait faire par rapport à ce qu'on pense mériter sur le portefeuille. En revanche, on est très en avance par rapport à la catégorie parce que la catégorie n'est pas investie. Et les gens ont eu très peur ou n'ont fait que vendre le peu qu'ils avaient en écrétant des plus-values, ce qui fait qu'aujourd'hui, de par l'exposition qu'on a dans le marché, ça nous donne beaucoup d'avance, quelles que soient les valeurs, même si nous, on pense que dans les prochaines semaines, la rotation qu'il devrait y avoir dans le marché va faire que le fonds devrait plus surperformer par rapport au marché, par rapport encore à la catégorie.
Alors justement, en une minute, je vais vous poser une question. C'est souvent une question qui revient des clients. Donc surtout, bon, il y a des clients qui sont, pour en revenir à la première partie de l'émission, un peu passifs et qui s'espèrent. Mais il y a des clients qui sont actifs, voire même proactifs, et qui analysent ce qu'on leur dit, qui regardent. Et une des critiques, alors ce n'est pas une critique à l'égard de votre fonds, mais une des positions amenées par les clients, c'est que ça fait quelques années que vous êtes dans cette catégorie des fonds diversifiés mixtes Europe, mais en réalité, vous vous comportez presque comme un fonds action, puisque vous êtes investi, j'ai presque envie de dire, entre 75 et 100% depuis 5 ans. Et il y a peut-être eu des petites périodes où vous avez désinvesti, mais tous les points qu'on a fait ensemble, vous étiez fortement investi, voire même à plus que 75%. Et là, je parle sous votre responsabilité, mais ça me paraît même être un minimum. Ou un point bas depuis 2, 3 ans.
Vous avez raison. En fait, vous avez complètement raison. Et cette remarque, elle est à la fois recevable et elle est souhaitée de notre part. C'est-à-dire que à l'heure où on vous parle, le marché est au plus haut. Donc en fait, si on regarde sur 4, 3 ou 5 ans, il fallait être investi. Certes, il y a eu des à-coups. Certes, on aurait pu sortir, rentrer, mais personne ne l'a fait. Donc quand on voit le niveau du marché, le prix et la valeur d'entreprise, il fallait être investi. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est d'acheter le meilleur coût pour le rendement risque, d'acheter ce qu'il y a de plus intéressant en termes d'actifs et le plus rémunérateur. Et objectivement, avec un peu de recul, ce qu'il y avait de plus rémunérateur, c'était bien le marché action. Donc ça génère de la volatilité parfois, ça génère des à-coups de marché parfois. On en est désolé, on en est les premières victimes aussi avec nos clients, avec vous. Mais on considère que c'est ce qu'il fallait avoir. Et à l'heure où je vous parle, on considère que c'est toujours ce qu'il faut avoir. Mais je ne vous cache pas que c'est très probable, je ne sais pas quand, qu'on soit exposé à 10, 15 ou même pas exposé en action dans un moment donné dans les prochains mois. Ce ne sera pas bon signe pour tout le monde parce que ça veut dire qu'on aura des risques importants sur beaucoup d'actifs et je préférerais nous vivre le plus tard possible. Mais c'est une possibilité parce qu'en fait, on peut faire ça. Il faut bien comprendre que ce fonds peut être investi à zéro. Il a déjà été investi à 0% en action il y a très longtemps, vous avez raison de le souligner. Il est investi plutôt entre 75 et 85 depuis maintenant un bon moment. Mais les événements de marché, les valos, les prix et les risques nous ont amenés à avoir ces positions. Et ce qu'il faut surtout souligner pour vos clients comme pour vous, c'est qu'on a su tenir ces positions à des moments où tout le monde disait qu'il fallait vendre et pas y être. Donc et ça a été très difficile parce que quand vous avez une gamme, c'est pas très grave, mais quand vous n'avez qu'un seul fonds, tenir contre vents et marées, contre les convictions de tout le monde, contre les nouvelles négatives, contre la vie des clients ou autres, c'est quelque chose qui est très difficile. Et on a montré qu'on était capable de le faire. Et je pense que cette discipline de travail, cette approche, elle est extrêmement valorisante pour vos clients comme pour nous, parce qu'elle était très rémunératrice. Et finalement, c'est sur les 5 dernières qu'on a les meilleures performances en relatif par rapport à notre catégorie et en absolu. Le fonds aujourd'hui, que vous prenez sur un an, ce fonds fait quasiment 8%, depuis l'année, il fait 8%, en 3 ans, il fait entre 12 et 15% par an. Donc c'est finalement à des moments les plus difficiles où il fallait tenir les positions qu'il a été le plus rémunérateur. Et je suis très heureux et ça me permet de remercier vos clients et clients, on va dire, d'être fidèles et de nous avoir fait confiance, parce que cette confiance, elle est précieuse, elle est fragile, bien sûr. J'espère qu'on en est digne et on se battra toujours avec ses convictions et ses valeurs pour essayer d'apporter le meilleur à vos clients, à nos clients.
Allez, c'est sur ces mots sortis du cœur, on les sent vraiment sortis du cœur, qu'on va en terminer. Donc, merci beaucoup Bruno d'avoir
Merci à vous,
participé à
Bernard.
cette émission avec nous. Donc, je rappelle, la société Ginger et le fonds Ginger Active 360, donc un fonds diversifié mixte européen. Merci beaucoup et
Merci à vous, bonne journée.
Au
Avec
revoir.
plaisir, prenez soin de vous. Au revoir.